I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Qu'est-ce qu'un VPN, mon amour?
Je sais même pas c'est quoi. Les trompes de Fallope. Je fais à croire que oui, mais je sais pas c'est quoi les trompes de Fallope.
L'autre jour, j'essayais de parler du tunnel qui relie mon oreille à ma gorge, puis j'arrêtais pas de dire, je sais pas comment il s'appelle, mais tu sais, le tunnel, c'est la trompe d'Eustache. Sache-le.
De là, la ville de Saint-Eustache.
Oui! Un VPN, c'est un Virtual Private Network, ou en français, un réseau privé virtuel, et ça désigne un service qui protège votre connexion Internet et votre confidentialité en ligne. Ça crée un tunnel chiffré qui protège votre identité en ligne en masquant votre adresse IP. OK?
Ben oui.
Fait qu'au nordvpn.com/couple-vpn, vous avez une offre exclusive et une garantie de satisfaction où vous serez remboursé dans les 30 jours. Donc, c'est sans risque.
Pas de risque. 30 jours. Yeah. NordVPN. Bon podcast.
Coucou mon amour. L'épisode de cette semaine est une présentation de Manscaped.
Woo!
Avec le code promo COUPLE20, vous avez 20% de rabais et la livraison gratuite sur le site manscaped.com.
C'est quoi Manscaped?
Manscaped. Ben, en fait, là, tu sais, ils m'envoient tout le temps des petits scénarios et j'adore
c'est
les
quoi,
lire.
C'est quoi Manscaped?
Manscaped, c'est des produits d'entretien de la faune autour de tes parties génitales.
Tu sais comme quelqu'un...
Oh, la flore, pardon, je me suis trompée.
Flore. Mon pénis, c'est pas une flore.
La flore. Si c'était des petits animaux.
Les deux, ça marche pas. Ni la flore,
si
ni la flore.
Si vous avez des petits animaux autour de vos organes génitaux.
Mais je suis sûr que ça marche pour les hamsters.
Allez voir le médecin, même si vous n'avez pas de médecin de famille, présentez-vous à l'urgence.
Ils vont vous prendre. Ils vont vous prendre. Vous êtes code rouge. Cet homme a un cochon d'Inde entre les jambes. Il faut voir un médecin tout de suite.
Alors,
c'est quoi le code promo?
C'est couple 20.
Couple 20.
20% de rabais, la livraison gratuite sur manscaped.com. Il m'a envoyé un petit scénario parce que, mon amour, c'est le temps de l'Halloween. Ben, tu sais quoi? Ils ont écrit Cue Haunted Music, puis c'est quasiment ça. Tu l'as quasiment eu.
Je sais, mon amour. Je sais pas comment expliquer ça. Je suis pas analphabète.
T'es pas comme la fille de Glee, là. Tu sais, la rumeur, la fille de Glee, elle lit pas.
Harry, mon amour, Harry.
Elle lit beaucoup, mais elle lit pas.
Je vous présente. Une jeune mère de famille qui a un enfant pendant 6 jours de suite, la garderie fermée.
Ça va bien. OK. Ils disent Manscaped. Attention. Leur scénario de l'Halloween va comme suit. Michael Myers sure is scary, but the last thing you need is to be hairy this Halloween. Hey, bonne.
Non.
Arrête. Dis pas non. C'est notre commanditaire.
Oui, oui, mais ils ont d'autres talents. Leur rasoir est aussi efficace que leur talent de dramaturge.
Oh! Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? The Weed Whacker. On commence à le connaître, mais je peux le répéter.
Répète-le.
C'est un trimmer pour le nez et les oreilles.
J'en ai besoin.
Qui
en
donne...
En passant, t'es un homme, t'as 30 ans. Ah, moi, j'ai pas de poils dans les oreilles. T'en as, tu le vois pas. Vas-y.
Moi, je dois dire que j'ai quand même des poils de nez parfois gênants qu'il faut que j'enlève.
Et lui, ça en a.
C'est ça. C'est pas... C'est pour
tout le monde. Tous les genres.
Tous les genres, toutes les personnes.
Tout le monde.
Alors,
juste les vieux, dans le fond. C'est tous les vieux.
À partir d'un certain âge. Mais tu sais quoi? Un moment donné, genre, j'étais dans la vingtaine, puis j'ai une amie dans la quarantaine qui m'a dit « Hey, tu sais, à mon âge, là, des fois, tu descends le pare-soleil, puis là, tu te vois à moustache, puis tu capotes. » Puis j'étais comme ben j'ai 22 ans puis moi aussi c'est un problème, tu sais. Je pense que ça peut dépendre aussi de la génétique, tu sais. Ouais, c'est ça. OK. Que si vous voulez gérer vos poils, notamment le Weed Whacker. Le Weed Whacker, ils ont un trademark qui s'appelle le Proprietary Skin Safe Technology, OK, TM, trademark.
J'espère que c'est eux autres parce que personne ne va leur voler ça.
Ça prévient les nicks, les snags puis les thugs.
Bon, les thugs!
Les thugs! Mais il n'y a pas de H.
Il n'y a pas des petits gars avec une attitude avec, dans des testicules. Faut que je te connais pas,
Tu fais ça avec ton Weed Whacker. Lâchez ma bourse. Oh my God!
Coupe le vin, mesdames et messieurs.
Coupe le vin sur manscaped.com. OK, ça c'est fait.
Ça c'est fait dans Nosti. Ça, on l'a fait.
Mon amour,
tu n'es pas juste rasé la moustache. Qu'est-ce que tu fais d'autre?
Je me promène sur la rue.
Oui.
Des fois, les gens me reconnaissent.
Oui.
À cause de couple ouvert.
Grâce.
Ça dépend comment tu vois ça.
Grâce. On aime ce projet. Pourquoi tu fais à cause de...
Mais j'aimerais saluer les gens. Tout le monde est vraiment gentil, notamment la fille que j'ai croisée au comptoir des charcuteries alors qu'on devait porter le masque et qui avait environ notre âge et qui m'a appelée Madame Vandelac. Merci pour ça. J'ai senti qu'il y avait beaucoup de respect dans ton approche puis elle était très gentille. Voilà. Toi, est-ce que ça se passe bien quand les gens te reconnaissent?
Vous me faites peur. Régulièrement. Quand je sors de Montréal et des couronnes et vous me reconnaissez, vous me dites de manière... très épeurante. J'étais à Chicoutimi. Il y a un gars dans son véhicule qui a baissé sa vitre, qui s'est arrêté devant moi, qui m'a pointé puis a fait « C'est quoi ton nom? » Je sais pas si c'est une manière d'aborder les gens parce que moi, pendant un instant, j'étais comme « À qui je dois de l'argent? » Est-ce que j'ai manqué de respect à quelqu'un? Qu'est-ce qui se passe? Puis il a fait « Ah oh non, ton podcast, il est bon. » Une suggestion. Commence par ce bout-là. Commence par le bout par « Je t'apprécie. » Ensuite, c'est quoi ton nom? Et peut-être pas obligé de pointer les gens comme ça.
Le gars qui a dit « Toi, je te connais », c'était bon aussi.
Ça, j'aime ça!
Ouais, mais je te connais aussi comme pourquoi, tu sais.
Ah, le meilleur, c'est à l'épicerie. Un gars qui m'avait dit « Qu'est-ce que tu fais ici? » Faut bien être à quelque part. Je sais
mais ça, c'est fou quand il commence comme ça. Puis la deuxième phrase après, c'est comme « Je suis Patreon ». Puis t'es comme « Ben, merci! » Puis « Mais pourquoi? »
Qu'est-ce que tu fais ici? Je m'achète des chips.
Ah. Ouais, on se promène dans la province de Québec.
Mes préférés, c'est quand je joue au basket dehors, puis vous criez yeah! Puis ça me donne du courage. J'ai gagné beaucoup de parties comme ça où je perdais, puis là, quelqu'un criait yeah! Ça a mélangé mon adversaire, qui n'est pas pu se faire crier après dans la rue.
Là, il était comme, mon Dieu, je joue contre une célébrité. On n'avait pas dit que c'était le match des célébrités. Jeudi après-midi au coin de Papineau. Pierre-Luc Funk arrive dans 2 minutes, c'est
ça. Lui qui me remplace.
Le changeover.
Let's go.
Mais ça, tu dis, c'est bien touchant. Merci, merci pour vos bons mots sur Internet et dans la vie. Peut-être juste des fois changer la première phrase.
Mm-hmm.
On sait, mais ceci dit, on sait que des fois, c'est pour être comme comique.
C'est épeurant.
C'est ça.
C'est plus épeurant que drôle. C'est plus épeurant que drôle parce que ça existe, les gens qui ont des couteaux.
Oui. Est-ce qu'on présente nos invités?
Non.
Aussi parfois,
on parle de Manscaped pendant 1h30.
C'était tellement bon. Je suis capable de faire assurément 1h30 avec le matériel qu'ils m'ont donné.
On écoute.
On reçoit Gabrielle Caron et Evelyne Ferron.
Hello!
Bonjour! Bonjour, en fait. Merci d'être de retour.
Ben merci de nous avoir réinvités.
Ben oui, en fait. On s'est rapprochés. On était quand même... très contente.
Ah, ben là, c'est que c'était tellement le fun. Puis on a senti la dernière fois qu'on avait tellement de choses à dire et on était envoûtés par tous les sujets.
On a toujours des choses à dire.
Ben oui, je sais.
Dans un podcast, c'est bon.
Je sais bien.
Parce que plein de... Il se passe quoi avec nos vies?
Mais Evelyne, tu nous racontais que tu as été reconnue grâce ou à cause de
Louvain.
Oui, oui. D'habitude, c'est pas pour ça qu'on me reconnaît. Mais depuis mon passage, effectivement, je me suis fait arrêter, entre autres, dans une épicerie, moi aussi, mais à Saint-Marc-des-Carrières.
Incroyable.
Donc, on est dans la région de Portneuf. On n'est pas à Montréal. Et là, tu sors ton épicerie, comme toute personne normale. Puis là, à un moment donné, quelqu'un t'arrête et dit « Hé, attends, t'es la fille qui est passée à couple ouvert. C'était vraiment bon. » Puis j'ai fait « Moi non plus, pas de bonjour. » Ils se sont comme surpris. Je suis comme, ouais, je suis passée à couple ouvert. Ah, nice! OK, c'est bon.
Ta
j'habite ici. Oui, j'habite quelque part. Je n'habite pas Montréal. Je fais partie de ces gens qui habitent à l'extérieur. Donc, il m'a bien étonné que je sorte en liberté dans une épicerie.
On t'a laissé partir du studio un moment donné, puis t'as été faire ton épicerie.
m'acheter à manger, moi aussi. C'est ça. D'habitude, on me reconnaît pour ma voix, pas pour, mettons, mes cheveux. Où, là, c'était clairement... Je pense que c'est le YouTube de Couple Ouvert.
Le YouTube de Couple Ouvert, un haut lieu de l'internet.
Voilà. Oui. Il en parle dans tous les podcasts.
C'est très intellectuel. Sauf vos commentaires.
C'est un trou noir de l'internet, le YouTube de Couple Ouvert. Mais donc, vous continuez votre podcast. Ouais. Evelyne et Gabriel font un podcast. C'est un podcast que j'adore personnellement, puis que je suis bien contente. Je sais que vous faites plein d'autres affaires là, dont on peut parler un peu tout de suite, parce que rapidement, on va retourner dans votre podcast et ses sujets. Mais notamment, Evelyne, tu es professeure.
Oui.
Tu es chronique à Radio-Canada.
Oui, toujours. C'est ma 12e année avec Franco Nouveau.
Et je t'ai même pas née. Je t'ai même pas née quand elle a commencé.
En fait, c'est de la trentaine. Je vous entendais au début. Je suis comme, j'ai commencé à 30 ans. Je suis rendue à 41. Allô? Je suis encore là.
Ben oui.
Ouais, tous les dimanches matin.
Très cool. Puis Gab... Sur la route, un peu, en humour.
Oui,
soirée d'humour, show corpo, oui. Tout ça, ça continue.
Oui, et le balado « J'ai fait un humain » aussi, qui continue de vivre sa vie. Et le livre aussi « J'ai fait un humain ». Fait que tout ça, là, qui se peut, qui existe.
Un bien beau balado sur la maternité, oui. L'accouchement, oui. Les expériences d'accouchement. J'ai lu ton livre, ça m'a beaucoup touchée. J'étais comme, j'aurais tellement aimé ça, le lire avant d'accoucher.
Écoute,
ça m'aurait
moi, j'aimerais
rassurée,
qu'on le remplace par les cours prénataux. Tu sais, on enlève les cours prénataux, puis on écoute « J'ai fait un humain », puis on lit le livre si on a des questions. Puis après, si t'as encore des questions, fais des cours prénataux.
T'as pas aimé les cours prénataux?
Non, j'étais terrorisée.
Je t'écoute. Qu'est-ce que t'as pas aimé?
Oui, je comprends.
Moi, j'accouchais pas.
J'ai pas aimé les gens dans mes cours prénataux. Pour vrai, je suis sortie de là en faisant, je peux pas croire que tous ces gens-là vont avoir un bébé sous peu. Ça se peut juste pas. Comme, la période de questions m'a terrifiée.
Tes questions favorites?
Est-ce que je peux donner de l'eau pétillante à mon bébé?
Ça, j'aime ça.
Ah oui, pour le faire roter.
C'est ça français que tu
oui,
dis ça?
Oui, absolument.
Oui, on est à Montréal.
Est-ce que je dois faire régurgiter mon bébé à chaque fois qu'il boit un biberon?
Genre avec mon doigt, je mets dans le fond de la gorge.
J'ai pas exploré plus que ça la
question.
Pardon
des détails, s'il vous plaît, monsieur.
Parce qu'il disait comme en le tapant dans le dos ou en mettant son doigt, tu sais, une technique ou l'autre, là, c'est pas une bonne technique.
Moi, ce que j'ai entendu dire, j'ai lâché l'école à 16 ans.
Ouais.
Mais ce que j'ai cru comprendre, c'est que le but de prendre des nutriments, c'est de les garder.
C'est ce
moi,
qu'on
je peux
dit.
Me tromper. Je peux,
avec l'alimentation, souvent, c'est ça l'objectif, c'est de tout garder à l'intérieur.
Et aussi, Kate Moss, c'est pas un modèle.
Pour les bébés.
Non.
Effectivement.
Non, ni pour grand monde. Je veux dire, faire de l'héroïne, c'est pas...
Kate Moss est arrivée dans la conversation.
C'était un boulimique.
Ah, OK! Là, je commence à faire des choses. Attends une minute. Là, on parle maintenant. Kate Moss vient d'arriver. Là, il me manque un morceau. C'est bon? Oui. D'accord. Je dois aider certaines personnes en même temps.
Oui, c'est ça. Mais oui! Puis une autre question que j'ai beaucoup aimée, c'est si je veux que mon bébé prenne du soleil, je peux-tu juste l'installer sur le bord de la fenêtre?
Brilliant.
Je suis comme une plante.
Hey, pour vrai, puis on a
parce
regardé.
Que tu veux un bébé bronzé.
Ben oui. Avec des petites le petit bronzage de lunettes.
En speedo.
C'est pas quand ils ont la jaunisse qu'ils font.
Oui, qu'ils les mettent dans des petits incubateurs comme des poussins, en fait. Mais ouais, fait que ça m'a les cours prénataux, il y en a quatre, j'en ai foxé deux.
T'as foxé des cours prénataux. Je savais même pas que c'était possible.
Tes enfants sont en vie.
Oui, puis ça va. Ça va. Oh pas bien, God. Mais ça va.
Ils n'ont pas encore plus d'eau pétillante.
Non. Ah. Ben, ou peut-être, sûrement.
Nous, elle tripe sur l'eau pétillante.
C'est vrai?
Ah ouais, j'ai fait découvrir le bubbly, puis c'est une erreur.
Moi, ils recrachent tout à chaque fois. Puis à chaque fois qu'on ouvre une liqueur ou un jus pétillant ou peu importe, ils veulent tout le temps regoûter. Puis à chaque fois, je suis comme, tu n'as pas aimé ça la dernière fois, mais j'ai changé. Et là, il est plus. Puis non, tu sais,
ça passe pas.
Je respecte ça. D'ailleurs, ils abandonnent pas.
Non, ils sont acharnés.
J'aime ça, ils sont acharnés.
Mais ils sont convaincus. Non, mais j'aime leur volonté.
C'était cool, les cours prénataux.
Ben, je veux dire, le highlight du cours prénataux, je pense que je l'ai déjà compté à Coupe Ouvert, mais je peux rapidement leur dire. Là, c'est, je pense que moi, je suis contente d'être allée au cours prénataux parce que je les faisais avec lui.
OK.
Fait que là, ça rajoute un petit facteur quand
sûr.
Même le fun. Puis.
Mais Thomas, j'aurais même aimé que tu viennes à mes cours prénataux.
Ah, mais c'est ça, on veut Thomas, à nos cours prénataux.
C'est un service qu'on offre pour les jeunes.
Je suis là pour poser des questions.
Ouais, pour les futurs parents, si vous voulez que je vienne à vos coprénataux, écrivez-nous à Couple Ouvert, je vais venir avec vous autres.
Ou quand Gab a fait des conférences, j'ai fait un humain, t'arrives.
Tu viens.
Ouais, tu fais un segment. Comme...
J'aimerais ça. Oui. Mais je sais pas si tu sais, Stéphanie, que Thomas t'a fait venir à mon shower.
Oh, hein? Wow.
Oui, tu avais demandé à mon chum si tu pouvais venir à mon shower.
Oui, j'avais gossé.
Et
vous avez convenu que non.
On avait convenu que non, mais c'est que j'ai eu un shower exclusivement féminin. Mais si j'avais eu un shower mix,
ça aurait été un
t'étais
pareil.
Là.
Ça aurait été un
t'étais
pareil.
Là.
Trouvé une autre excuse.
Oh non, 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 non. Moi, j'aurais aimé ça que tu viennes. J'aurais aimé ça que tu viennes à mon shower.
Je fais
que voilà, c'est
qu'est-ce
un autre.
Que t'aurais amené comme cadeau?
Il y aurait pas.
Une canne de Perrier. Une canne de Perrier.
Ça allait paraître une tondeuse.
Et de la crème auto-brosante.
Un weed whacker de Manscaped. On en a une coupe à maison, au besoin.
Mais qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce qu'on a fait au cours?
Non, c'est que quand tu m'as fait vraiment rire, c'est qu'à un moment donné, il montre comment bien allaiter avec le sein.
Ouais.
Puis il explique que c'est important que le bébé tète pas juste la tétine du mamelon, mais bien qu'il englobe le mamelon complet avec sa bouche pour bien avoir une bonne quantité de lait.
Ce que je savais pas.
Et pour nous démontrer ça, il filme une femme juste la poitrine.
Oui.
Et là, elle se squeeze le mamelon et là, quelques gouttes de lait sortent à peine. Puis après ça, elle se pogne le sein puis elle se le squeeze. Puis là, ça fait un... Puis là, lui, ben, il fend
tout ça drôle.
Le cap. Hein,
je comprends.
Puis là, je suis...
Tout ça bon.
Puis tu sais aussi, quand il... Tu sais, là... Ah! Ça, c'est Thomas qui il part. Hein?
Tout ça bon.
Je rappelle qu'on est dans un ciel laissé, les lumières fermées avec les
mamelons. Mais il y a des femmes qui tiennent leur
oui,
chum comme si ils ont peur.
Ben oui, mais oui. Mais nous, on avait regardé une vidéo d'accouchement. D'ailleurs, pas d'avertissement ni rien. Là. Elle a juste starté ça de même.
Nous, j'ai adoré ça, moi, cette vidéo-là.
Eh, moi, là, Oli puis moi, on ne pouvait pas se regarder parce qu'on savait qu'on allait fendre
dans
le.
On a fait de l'amour dans le char après. Ça nous a donné le goût, là.
Pour vrai, c'est genre un vidéo
de la station du col.
C'est venu nous chercher.
Mais tu sais, une vidéo qui date des années 80, genre j'avais peur de voir ma mère dedans.
Ah,
là,
ouais, ouais,
c'était
ouais.
Vraiment terrorisant.
C'est quoi ta vidéo, toi?
C'était trois couples des années 80 et il y en avait un qui avait une moustache, puis la madame, elle avait une perm, puis le monsieur, il donnait des petits becs dans le cou, puis j'étais comme, si tu fais ça pendant que j'accouche, Oli, je te punch.
C'est vraiment, c'est sûr.
Et là, Oli, il fait, mais attends, c'est-tu son chum ou c'est son père? Puis là, c'était fini. On a arrêté d'écouter. On essayait que de voir s'il y avait un lien familial entre les deux.
C'est
et
génial.
Là, c'est ça. Ça a arrêté là. Là. Ouais.
Moi, ce que je retiens, Mané, des trois accouchements qu'ils nous ont montrés, c'est qu'il y en avait un avec péridurale, sans péridurale à l'hôpital, puis un complètement naturel en maison de naissance. Fait que c'est intéressant d'avoir différents scénarios. Mais celui complètement naturel, notamment, il massait la zone entre l'index et le pouce, qui est une zone, je ne me souviens plus comment elle s'appelle, mais il y a un nom qui est censé te détendre pendant l'accouchement.
Ce qui marche quand tu as des menstruations, mettons.
Hein? Qu'est-ce que tu veux dire?
Quand tu as des menstruations, ça peut détendre. Quand tu accouches, un peu moins.
Ah. Je ne sais même pas s'ils recommandent ça pour les menstruations, mais en tout cas...
On va le faire maintenant.
Bref, je ne suis pas menstruée en ce
pas
moment.
Pas là, mais éventuellement, l'année prochaine. L'année prochaine.
L'année prochaine, ouais.
Tu me le feras.
Là, ça part,
ouais,
vas-y.
Ça part, go.
Vas-y.
Là. Même, les gens vont te reconnaître à l'épicerie puis vont suivre ton cycle menstruel.
Ah, c'est ça!
Mais tu veux-tu que je te passe? Dans ton SPM aujourd'hui, Stéphanie.
Viens, on va te masser la zone.
Non.
Puis à l'accouchement, tu sais, moi, ça, j'ai dilaté super vite, puis ça a vraiment été comme rapide. Fait que j'ai été en douleur très vive rapidement. Puis habituellement, au premier accouchement, c'est un peu plus
long.
C'est
long, ouais.
Fait que tu sais, les infirmières, eux, ils étaient comme, ouais, t'as mal, mais on pense que c'est encore le début. J'étais comme, non, c'est vraiment comme intense. Puis là, Mané a dit, ben, vous pouvez masser la petite zone. J'étais comme, je veux pas masser la petite zone. Je veux la péridurale tout de suite.
Hey, mais moi, j'ai eu un point de pression, puis j'ai tapé l'infirmière.
Wow!
Ouais, j'étais genre, non, ça arrivera pas, ça, parce que j'avais full mal. Moi aussi, je voulais la péridurale, puis il était comme, oh non, mais faut attendre quoi, man?
J'ai plus
attendre. Viens-t'en.
Ouais.
Et elle dit, mais on peut te sortir le ballon ou prendre un bain. Puis j'étais genre, allez, puis je voulais rien savoir de ça. Elle dit, mais je peux te faire un point de pression en attendant l'infirmier, le chirurgien, ou peu importe, là. Mais moi, je savais pas qu'un point de pression, dans le fond, c'est de te faire mal ailleurs pour que t'ailles plus mal à ta contraction, mais t'as juste mal ailleurs. Fait qu'elle m'a fait un point de pression, je l'ai tapé, je dis, ça sera pas ça notre technique, ça sera pas ça là qui va arriver.
Moi,
je
me... tapé,
oui, j'allais. Non, mais elle m'a pesé, je sais plus, là, puis là, j'ai comme tapé sa main, là, comme un réflexe de non, ça, comme un petit chien, là, que si j'avais eu un journal, je l'aurais roulé, puis j'aurais tapé le museau.
Moi, je me souviens, Steph était à quatre pattes dans le lit, tout nu, à vomir de douleur.
Oh mon Dieu.
Et il disait, ouais, ça serait peut-être intéressant, le ballon. Et j'ai dit, non, la drogue. Vous allez droguer cette femme. Droguer cette femme. Elle est rendue là. Le ballon, elle m'a vomi de douleur. Là, soudainement, elle roule. Puis comme, ah ouais, je suis mieux. J'en doute. Juste, donne-t-il de la drogue.
Ouais.
Plein, il y en a plein.
Mais c'est vrai, on n'était pas dans les maisons de naissance où vous accouchez dans l'eau de manière naturelle sans drogue.
C'était pas mon scénario.
Non.
J'étais vraiment contente d'être en contact avec la médecine moderne, la plus moderne possible.
Donnez-moi du temps, Daniel. Moi, en plus, Steph a accouché
au
CHUM. Puis je me dis, si vous ne donnez pas de drogue, on va aller en chercher. On n'est pas loin
on
des
deux camps. Mais oui.
On va descendre en bas.
Ça ne
sera pas long.
Et vous de l'étivant, c'est vraiment mon accouchement.
Mais ceci dit, donc, tout s'est bien passé finalement. Mais tout ça pour dire que donc, j'ai fait un humain.
Oui.
Quel beau projet. Félicitations.
Merci beaucoup.
Puis c'est ça, je recommande honnêtement, si vous pensez avoir des enfants, si vous êtes enceinte, si vous voulez vous familiariser avec la maternité, puis je trouve que ton humoristique, puis les référents québécois, j'avais vraiment l'impression de parler à une amie qui partageait mes craintes, puis tout ça. En tout cas, bravo, c'est super.
Et aussi un projet qui... Comment souvent la maternité nous est présentée, c'est que c'est extraordinaire. Mm-hmm. Puis c'est que le bonheur. Mm-hmm. Et on sent bien là-dedans. Et les femmes enceintes, souvent leur frustration, c'est « Ah, moi, je ne trippe pas, je suis toute seule. » C'est l'inverse. Il y a beaucoup plus de grossesses frustrantes qu'agréables.
Oui, mais oui, puis c'est absolument vrai. Dans le balado, on a tout. Il y a des filles qui ont adoré être enceintes, qui ont détesté accoucher. Il y a des filles qui ont détesté être enceintes, qui ont eu un super bel accouchement. Il y en a qui ont tout haï. Il y a des accouchements qui se voulaient naturels qui, finalement, ont fini en césarienne d'urgence. Il y en a qui étaient des césariennes planifiées. Il y en a, tu sais, on touche vraiment à tout. Puis sans tabou, sans gêne, sans jugement, pour montrer justement que tout est valide, là. Puis il y a pas d'échec dans un accouchement, on va juste le redire
fois. Mon Dieu, tellement.
Chaque corps est unique, chaque femme est unique.
Puis il n'y a pas d'échec dans...
Excuse-moi, pendant l'accouchement, de t'avoir dit que tu ratais tout le long.
Fais ça mieux!
Ouais. Mais moi, souvent, ce que je faisais, c'est à l'accoucher, puis moi, je disais, t'es pas bonne.
Non, on a une archive vidéo.
T'es pas bonne. Moi, puis aussi, quand elle disait... je me... Physiquement, j'étais comme ça. Fermé.
Non, j'aurais imaginé que t'aurais été celui qui, avec la caméra, aurait
fait Mon père a fait ça!
Non!
Je vous dis, il venait juste de s'acheter une caméra high-tech pour 1987, année de ma naissance.
Le grain rajoute quelque chose, hein? Le grain,
je te
jure.
Puis j'ai déjà essayé de l'écouter, pas capable.
Mais non!
Gros zoom!
Sur 4-3, ouais.
Sur la vulve de ma mère, complètement enflée. Je sais.
Mais là, est-ce que je vous ai déjà raconté la fille avec qui j'allais à l'université?
Vas-y.
Je vais à l'université avec une fille. On est des copines d'école, là. Tu sais, on se connaît pas tant que ça. Fin de session, un moment donné, on décide de faire un petit party et tout. Fait que notre party étant d'aller chercher un take-out, de dîner ensemble, de se caler de la bière dans son salon.
Bien.
Et là, après deux bières, ça fait une session qu'on se connaît, comme que je vous montre mes photos d'accouchement. Première photo. C'est la tête de son bébé dans sa noune. Puis je suis genre, je vais finir cette bière et m'en aller. J'ai 22 ans. Je suis vraiment pas rendue là dans ma vie.
Ah, même, j'ai 33, puis je suis pas capable.
T'es pas, c'est ça, mais oui.
Puis là, on parle de photos papier, là, qu'elle a fait venir chez Jean Coutu.
Oui, glacée, puis tout,
la bordure blanche.
Vraiment. La tête du bébé qui
sort. De tout. Puis moi, je suis même pas sûre c'est quoi ton nom de famille, là. Puis on vit ça ensemble. Et pourtant, là, avec le recul, je suis comme, hey, j'avais des questions. J'ai beaucoup de questions, là.
C'était une opportunité pour toi d'apprendre.
Oui, mais je l'ai complètement raté en continuant de caler de la bière dans son salon.
C'est comme ça qu'on est devenus amis, en fait, elle me montrait la vidéo
Parlant de bière, t'as déjà été floué. On a déjà essayé de te flouer avec la bière.
Oui, mais on en parlait un peu avant d'enregistrer, là, mon premier contact avec l'arnaque, en fait. J'avais 14-15 ans à peu près, puis j'attendais devant le DEP sur le boulevard Rome à Brossard, pour ceux qui ont le référent. Et puis, j'attendais que quelqu'un veuille bien m'acheter de la drogue. Pas de la drogue.
Drogue.
Non, de la drogue, je l'achetais moi-même, excusez. que quelqu'un m'achète de l'alcool. Puis là, tu sais, tu te sens toujours un peu tough, mais loser en même temps. Là, t'es comme, on va boire. Mais avant, j'ai besoin d'un adulte. Tu sais, comme, c'est pas un beau moment de ta vie. Fait que je suis juste là, puis là, il y a un monsieur qui arrive. J'ai un monsieur, il devait avoir 21, là. Tu sais, je suis généreuse avec mon monsieur.
114.
Tout le monde, hein? Tout le monde a l'air d'un monsieur. Dès qu'ils ont 17, c'est comme majesté. mais ça, puis là, je disais, peux-tu m'acheter de la bière? Puis là, il dit, parfait, pas de problème, donne-moi ton 10 $. Puis là, je donne mon 10 $. Puis là, il fait, ah, mais pas cette dep-là, je connais le gars. Fait que là, je vais aller à l'autre dep à côté. Puis là, je suis comme, OK. Puis il dit, moi, je vais y aller en auto. Fait qu'on se rejoint là-bas. Puis je dis, genre, mais avec mon argent, tu pars dans ton auto? Ça arrivera. Donc, ben non. Puis là, il m'a dit, fais-moi confiance.
Mmh. Et là, c'est le moment. Là, tu te dis, correct, je vais embarquer avec toi dans ton char.
Puis tu sais, au départ, tu peux te faire confiance à un gars qui achète de l'alcool à des enfants.
Mineurs. Ouais, ben non, c'est ça, là. C'est ça. Oui. Puis, mais j'ai travaillé dans un dépanneur aussi. Et quand quelqu'un venait acheter de l'alcool, c'était la chose qui me stressait le plus de carter quelqu'un.
Ah oui.
Ça a commencé quand le cartage? Parce que là, je réalise que je suis un tantinet plus vieille que tout le monde autour de la table. Mais je veux dire, moi, ça n'a jamais vraiment. Je veux dire, c'est arrivé à un moment
où
j'étais sur la limite de devenir légal. Donc
mais moi, j'ai eu l'air vieux très jeune. Fait que c'est moi qui sortais de l'alcool de mes amis.
Ce qu'elle veut dire, c'est qu'elle, à l'époque, personne ne cartait.
Personne.
Ben, je veux dire, quand j'étais ado, mettons que j'avais 12, 13, 14 ans, je ne vis pas à Montréal. Je viens de la région de Yamachiche, Louisville. C'était pas un enjeu.
Ouais, c'est autre... moi, je pense que c'est une question de région.
C'est ça. En région, sortir de la bière, on n'a jamais eu de problème d'avoir l'air vieux ou pas vieux ou autre. Ou sinon, c'est les parents qui disaient, ben, j'aime mieux que vous buviez encadré dans le terrain de notre maison dehors où est-ce qu'on voit ce que vous faites. Fait qu'ils vont nous fournir la bière, mais au moins, on était dans une zone où ils savaient où est-ce qu'on était et ce qu'on faisait. Il y avait plus ce
je me rappelle avoir déjà dit à un parent, il avait dit ça. Moi, votre alcool, je préfère que vous la buviez ici où je peux vous surveiller, puis c'est encadré. Puis j'avais dit, oh, mais là, c'est plate. Le but de boire, c'est faire des erreurs.
Ouais, mais.
Et il n'était pas d'accord avec ça.
Ouais, ouais.
Il ne nous surveillait pas tant que ça, mais il y avait peut-être moins de vitres brisées ou des choses comme ça. Mais tu sais, je veux dire, essentiellement, mes premières beuveries d'adolescente, c'était dans des champs.
La région!
Oui, oui, vraiment en campagne. Tu sais, je veux dire, assis sur une botte de foin à caler
des bières.
Combattre
des ours.
Non, les ours, ça, c'est récent. T'as vu la photo de mon ours?
Oui, j'ai vu ça! Elle a un ours! Oui!
À Saint-Marc-des-Carrières.
Non, Deschambault. Mon épicerie est à Saint-Marc, mais j'ai Deschambault. J'ai un grand terrain avec des bleuets. Je suis rentre Madame Campagne, là, vous n'avez aucune idée là, de la production agroalimentaire qui se passe chez moi. J'ai beaucoup de bleuets. Puis c'est ça, à un moment donné, j'ai dormi bleuets cet été, puis j'ai fait « Qu'est-ce que ce tas?
» Oh my God!
qui est là. C'était vraiment très gros, fait que là, j'ai pris une photo.
Puis seulement, c'était le maire.
Oui, c'est ça!
Parce que le maire de Deschambault est un ours.
Non, il est allé...
Il est allé là, en joguant. Mais non, là, les voisins chasseurs, j'en vois aussi, on dit « ça ressemble à de l'ours ». Et effectivement, vous pouvez aller sur le site de la faune et identifier les déjections. Puis si c'est de l'ours noir, c'est pas la même chose que de l'ours brun.
Wow. Ah.
Si vous voyez de la merde d'ours brun, vous appelez la faune, parce que là, ils vont intervenir. Mais l'ours noir, il a peur de vous. Ah. Pour en avoir croisé l'année dernière, mon chum me faisait un pavillon sur mon terrain, puis il y en a un qui était debout, puis qui le regardait faire. Petite surprise. Oui, c'est ça, je vis dans cet univers. Mais là, je vais dire, OK, bon, c'est de l'ours noir. Fait qu'il y a des ours noirs qui viennent manger mes bleuets, mais ils foirent pas mes bleuets. T'sais, ils ne s'assoient pas dedans, ils font pas de dégâts. Et là, ben, c'est le temps de la chasse qui s'en vient. Donc, les caméras sont arrivées dans les arbres des voisins chasseurs et on a vu une des bêtes sur une caméra infrarouge. C'est toute une bête.
Ah, c'est gros. Immense,
je vous enverrai la photo, mais il doit peser 300 livres. Là,
wow.
Il est gigantesque.
mais c'est parce que j'ai justement écouté les gens d'automne la semaine passée, mais ça me fait fou de penser à ça.
Avec Brad Pitt qui pleure exactement de la même façon dans les gens d'automne, dans Troyes, il fait tout le temps la même affaire. Oh.
C'est quoi? Non, mais les gens d'automne.
Soir, là, il fait ça, là. Puis il se met tout le temps la main comme ça. Il fait dans les jambes d'automne. Il fait dans trois, je l'ai remarqué. Là. Il est là, mais il commence, puis il part. Mais il se met tout le temps la main dans la face.
Tu sais que c'est parce qu'il y a un bon côté aussi, hein?
Mais c'est ça, il cache son profil. Mais j'ai déjà fait pour le fun. Les deux scènes se fusionnent quasiment.
J'adore. On est des érudits de légendes d'automne.
Mais non, mais légendes d'automne. Moi, j'ai une de mes amies qui avait un laminé de légendes d'automne. Jalousie, comme ça se peut pas.
C'est fou, ce film-là.
Mais oui,
la musique.
Mais oui, mais non, quand il débarque le cercueil là, du train, t'as vu, je t'en ramène. Que voyons donc, voyons donc!
La mort du premier frère n'a aucun sens.
J'ai des
on est parti de Beuvry dans un champ, on est rendu à l'Égypte d'automne.
On va parler d'histoire 20 secondes. La mort du premier frère, militairement parlant, n'a aucun sens.
Non, effectivement, dans les barbelés, là.
Ouais.
Ouais.
Parce que...
Tu sais que c'est le gars de Haïti, hein?
C'est le petit gars d'Haïti.
Ben oui, c'est le petit gars d'Haïti.
Wow. Hein,
c'est lui qui
m'aime, ça. Aussi, mais,
Evelyne est historienne, c'est pour ça qu'elle sait tout ça.
Non, j'ai des amis au cinéma aussi qui me font remarquer ce genre
non,
de
non, mais voici ce qui arrive. Le gars, il part tout seul. Oui. Parce que lui, j'étais un militaire.
On est dans la Première Guerre mondiale.
Qui n'est pas avec mon bataillon. Moi, je m'en vais juste dans le bois tout seul contre les Allemands.
Oui.
Il va tout seul. Il tombe dans des barbelés. Parce qu'ils ont pris le soin de mettre des barbelés dans le bois.
Oui.
Il est pogné dans des barbelés. Puis il y a deux soldats allemands qui sont là, qui font juste attendre qu'un gars tombe des barbelés. Mm. Ils mettent plein de balles parce que les ressources pendant la Première Guerre mondiale, c'est pas important. Illimité.
Ouais.
Ils envoient peut-être 78 balles. Puis une fois qu'ils ont fini, fait, notre mission est complète. Tuer un seul soldat.
Qui en plus est là indépendant.
Ouais. Ah, puis il y a un autre soldat qui vient. Non, lui, on le tue pas. On va pas tuer le deuxième soldat. C'est l'heure de la pause café. On retourne à notre campement. Ça n'a aucun sens.
Bon, OK, d'accord. That's merci it. De ruiner le film que, de toute évidence, on adore les trois. Mais c'est
quand même... Brad Pitt
on va terminer
sexy,
ça
là.
Ici. Hein?
Parfait, super, on en parlera quand ça va.
Mais l'historien est de mon bord. L'historien est de
oui,
mon
oui,
bord.
Oui, non, vraiment, là-dessus, je suis de ton bord. J'écoute pas... Légende d'automne n'est pas un film que je vais écouter pour le...
Je comprends.
Le historically accurate.
Ouais, c'est intéressant, c'est quoi des films, selon toi, qui sont historiquement viables?
Ben, qui ont de l'allure. C'est sûr que des fois, sur la guerre, il y en a des pas pires, mais tu sais, l'Antiquité, souvent, c'est de la bouette. Là. C'est Troie, là, tu sais, si tu veux quelque chose que je détruis, ou Alexandre, c'est vraiment horrible. Mais, ben, en fait, dans les séries, des fois aussi, qui sont étonnantes, Rome de HBO, là, je vais te dire, c'est la dernière série ou film sur l'Antiquité qui a eu de l'allure. Tu sais, ou vraiment au niveau de la. De, même si c'est de l'élite qui est représentée, mais pour la vie de l'élite, les événements politiques, la manière que c'est joué, je fais, OK, ça. Honnêtement, vraiment du bon sens. Pour une fois, là, j'étais quand même d'accord avec quelque chose comme ça.
Est-ce que Game of Thrones, c'est comme historically accurate?
Ben, il y a des
J'aime que tu me le précises.
C'est inspiré. Mais, les films médiévaux sont rarement super bons.
Mais
c'est inspiré. Mais Half-Locking n'était pas si pire. Tu vois, c'est pas les meilleurs films nécessairement, mais des fois, au niveau... Parce que ça dépend. Est-ce que c'est les filles qui sont bons ou des fois, c'est le travail de recherche autour des costumes, au niveau de... Tu sais, je veux dire, un film comme Stargate n'est pas historiquement viable, mais c'est un égyptologue qui a travaillé pour montrer c'était quoi le son de la langue égyptienne à l'époque.
Wow.
Fait que tu sais, c'est ça. Fait que ça, des fois, mes critères, ça va dépendre de ce que vous me demandez, qu'est-ce qui est bon
finalement
dans
un film. Je sais pas si c'est... Peut-être que c'était n'importe quoi, puis c'est un trip d'artiste, mais dans Excalibur, le film Excalibur, c'est dans les 80, c'était tellement réussi parce que c'est la première fois que je voyais ça. Il y a des combats de chevaliers, mais ils sont coincés dans leur... Ils sont coincés dans leur armure, comme ça, puis 15 battes, c'est vraiment, j'ai
c'est difficile,
un coup comme ça, un coup comme
et
ça.
Et c'est lourd.
Et c'est compliqué, tout est... Attends, oh, il y a quelqu'un derrière moi.
Mention spéciale, Moyen-Âge quand même, le The Last Duel, je ne suis pas une grande fan de Matt Damon et de Ben Affleck, mais Ben Affleck est bleaché là-dedans, ça n'a pas de bon sens. Mais ça, c'est pour une historienne, j'ai fait, wow, OK, ils sont partis des archives d'un procès, en fait, qui s'est réglé par un duel, parce que c'est Dieu qui a déterminé est-ce que la fille a été violée ou pas.
Ah, ben oui.
Mais ils ont montré les trois points de vue qu'il y avait dans les archives historiques. Le film se déroule en trois temps, fait qu'on voit les différents... C'est magnifique. Adam Driver, vraiment, il fait le méchant là-dedans, mais il n'y a pas des scènes faciles à jouer, mais ça s'est vraiment passé, ça, avec Jean de Carrouge, là. Puis honnêtement, j'étais assez... C'est sûr que le monde n'en a pas parlé parce que c'est pas un blockbuster, vraiment pas. C'est très... assez sombre aussi au niveau de la représentation. Jodie McComber joue des scènes qui sont très dures. Elle se fait violer quand même trois fois. Parce qu'elle raconte
dans les trois
versions différentes. Elle et Adam Driver doivent jouer le viol dans trois séquences.
Tu peux relaxer un vendredi soir, je peux comprendre que c'est pas ça que tu choisis.
Non, c'est ça. Mais pour l'historienne, honnêtement, j'avais rarement vu un film d'histoire récent qui partait sur des archives. Honnêtement, là, cette démarche-là, j'ai adoré. Moi, c'est un des films que j'ai vraiment aimé.
T'as-tu écouté Serpent Queen, finalement?
Pas encore. C'est pas Stars.
Catherine de Médicis. Moi, je veux juste dire que je l'ai commencé. C'est absolument...
Ton idole, Catherine de Médicis, on le rappelle.
C'est mon idole.
C'est moi qui t'ai écouté ça.
Oui, c'est toi qui me l'as fait découvrir.
J'ai vu ça passer,
Mais je veux juste que tu saches aussi que grâce à toi, à chaque fois que j'écoute un épisode avec mon chum, je fais ça, c'est pas vrai. Ça, par contre, c'est vrai. Ça, c'est vraiment arrivé. Ça,
c'est la personne avec qui c'est le fun d'écouter la série.
C'est lourd, Mais fait, bref, si jamais vous voulez savoir là, si ça s'est passé
ou non,
écrivez-moi. Écrivez-moi, ça va me faire plaisir.
C'est ça que ça va mitiger.
Moi, j'aime tellement ça, mais tu sais, en même temps, je suis full biaisée parce que Catherine de Médicis, je l'aime assez.
My God.
Mais Game of Thrones, c'est pas tiré un peu de le War of Roses?
La Guerre des Roses,
ouais, c'est ça.
En fait, le mur est inspiré du mur d'Adrien, donc on est plus à l'époque où les Romains vont construire un mur pour, un, occuper les soldats parce que c'est une période de paix, mais on sait qu'éventuellement, de l'autre côté, la menace peut venir.
Ouais.
Donc, The Wall dans Game of Thrones est vraiment inspiré de ça. Et les femmes sont inspirées
de... Puis au nord,
de...
c'est les Saxons?
Non!
Okay.
T'es vraiment dans le nord d'Angleterre, en fait. Le mur d'Adrien, là, t'es dans la région des Cumbria, t'es à la frontière avec l'Écosse.
OK.
Alors, c'est vraiment plus, en fait, les, ce qu'on appelle les anciennes populations celtiques qui deviennent des menaces, en fait, dans ces régions-là un petit peu plus tard. Mais, fait que le mur est plus inspiré de ça. Mais, effectivement, les guerres pour avoir le trône sont beaucoup plus inspirées de la guerre des Roses, où, effectivement, là, on va avoir les Lancastres contre la famille de York. Puis là, ça va donner les Tudors. Ben, c'est des familles dynastiques, en fait, qui, quand un roi meurt, et qu'il n'y a pas d'héritier vraiment officiel sur le trône, bien là, les autres familles aristocratiques qui sont proches, finalement, de la lignée royale montent et veulent se battre pour avoir
une game
pouvoir.
Politique comme...
Ça devient une game politique. Et souvent, bien là, ce qui est arrivé, c'est que c'est un petit peu le troisième joueur qui l'a remporté. C'est Henri VII Tudor, le père d'Henri VIII, finalement, qui va être celui qui va régler toute cette guerre-là. Mais c'est... Tu essaies de faire une chronique radio là-dessus, tu perds tous tes animateurs. C'est un sujet très lourd à aborder parce que, justement, c'est des guerres dynastiques, c'est que c'est assez complexe. Lui, il s'est amusé avec ça parce qu'il y avait un beau terrain de jeu, mais pourtant, ses inspirations de femmes sont super intéressantes parce qu'il est allé chercher des femmes médiévales dont on parle souvent très peu, mais qui ont eu du pouvoir. Marguerite du Danemark, là, si vous regardez Cersei, je veux dire, puis si vous regardez même à peu près toutes les femmes qui essaient d'avoir le pouvoir là-dedans, on sent qu'il est allé la chercher plus particulièrement. Ça, c'est celle qui a réalisé ce qu'on appelle l'Union de Kalmar. Comme que c'est ça.
Prends ton podcast, prends ton temps. Ça paraît que tu fais de la radio parce que tu as une horloge dans ta tête.
Alors, je suis désolée, on doit aller à la circulation. Sur Iberville, en ce moment, il y a juste des petits travaux ici en avant.
C'est correct. Là, cette année, ils m'ont mis plus tard, mais ils m'ont mis sur la fin. Fait que souvent, ces temps-ci, je suis comme. Ils vont changer ça, ils me mettent comme à la fin. Mais l'Union de Kalmar, qu'est-ce que c'est? C'est que c'est la première fois depuis les Vikings que la Norvège, la Suède et le Danemark vont être unifiés sous une même autorité par un traité. Ça va durer jusqu'au 19e siècle. Et ça s'est fait au Moyen-Âge grâce à une reine qui s'appelle Marguerite du Danemark, qui, effectivement, par les jeux dynastiques, s'est retrouvée très jeune, mariée au roi de Norvège, mais je veux dire, elle était enfant, là, elle n'a pas couché avec tout de suite. Et quand le roi va mourir, ben, son fils, quelque part, devient en même temps héritier à la fois de la couronne du Danemark et de la Norvège. Et ils vont aller chercher la Suède avec.
C'est puissant comme empire.
Ça devient puissant, effectivement. Puis c'est une femme qui est derrière ça, qui va assurer la régence en arrière, qui va faire signer les traités. Mais nous, on ne connaît pas l'histoire scandinave au-delà, justement, des Vikings, on s'en contrefiche. Cette femme-là, donc comme il y a des archives, ben, c'est sûr que George Martin est allé piger là-dedans puis s'est dit hey, « des femmes comme ça, qui étaient capables en arrière, dans les coulisses, par la régence, on voit Cersei là, qui tire les ficelles », ce sont des inspirations. Fait que ça fait quand même... c'est pour ça que j'ai fantaisie médiévale, mais en même temps, c'est fantaisie romaine aussi pour le mur. Mais il va chercher comme ça des inspirations un petit peu partout puis il recrée une
comme un bon artiste, il pige dans ce qu'il y a de mieux.
C'est ça, il fait quand même quelque chose d'intéressant par rapport à ça. Comme Tolkien aussi a fait la même chose, je veux dire, il est allé piger dans les mythologies scandinaves, puis il a créé un univers fantaisiste autour de ça, mais sa base restait quand même une base mythologique qui existait depuis super longtemps dans ces univers-là. Fait que quand tu vas chercher un petit peu ces espèces de bases-là, ben ton univers, je trouve qu'il est riche. Puis je pense que c'est ce qui attire les gens autant à la lecture ou autant Dune, un peu la même chose. On va partir un peu sur ces principes-là de guerre dynastique, contrôle des ressources, bien avant l'heure d'ailleurs, mais quand tu pars avec quelque chose de concret comme ça, au Star Wars, République, les luttes de pouvoir, ben les gens savent un peu où se tenir, puis après ça, ils embarquent dans l'univers, puis ça devient intéressant. J'aime tout ça, là, je veux dire. J'aime un peu moins tous les nouveaux Star Wars, les Mandalorian et tout ça. Oubliez ça, là, j'ai pas suivi ça, mais je reçois plein de Baby Yoda des fois de d'étudiants, là. J'ai un peu perdu.
J'aime juste l'original.
Juste pas suivi tant que ça, tandis que Game of Thrones, même non, la nouvelle série Rings of Power, là, je suis plus là-dedans.
Dans Game of Thrones, il y a aussi le Red Wedding.
Oui,
le Red Wedding.
Le mariage rouge.
Le mariage rouge, merci, en français, ça sonne vraiment moins compliqué. Mais le Red Wedding aussi qui a été inspiré d'une vraie affaire qui s'est passée.
Ben plusieurs. C'est ça, George Martin, souvent... Il mélange,
parfait.
Courant, c'est ça, il mélange. Bien, courant, non, mais c'est parce que lui, il prend l'histoire de la planète au complet aussi, tu sais, pour s'inspirer. Mais, tu sais, d'utiliser des fois des alliances matrimoniales qui sont des alliances politiques... pour tuer tout le monde.
Oui, exactement.
Pour régler sur l'orgueil.
Exactement. Voilà.
Pour tuer tout le monde, ben, tu sais, je veux dire, c'est le meilleur endroit. Tu veux te débarrasser de tes ennemis. Tu sais, c'est inspiré de la Saint-Barthélemy, en fait, aussi. Le Red Wedding, au mariage d'Henri IV avec, avec la reine Margot, on a utilisé ce mariage-là pour tuer tous les protestants qui étaient tous rassemblés ensemble à Paris. Donc, les mariages dans l'histoire, souvent quand il y a des conflits dynastiques, c'est ça le problème.
Allez pas à des mariages si vous avez des dettes. pouvez vous faire étrangler. Elle n'est pas là. Avoir un beau cadeau, dit lâche pas, longue vie à vous. Non, tout le monde le sait, les mariages, c'est une manière de peut-être vous tuer. C'est pas moi qui le dis, c'est une historienne.
Hey, t'as tout le monde en même temps, au même endroit.
Oui.
C'est le meilleur moyen.
Comme quand ils font exploser le Ah, Seigneur, comment ils appellent ça?
Le donjon. Le World Trade Center, c'est un moment horrible dans notre histoire. Je sais pas pourquoi, t'oublies tout le temps.
Hé, hey, moi, je suis rendue
à enseigner. Un gros mariage cette journée.
Vous savez que j'enseigne à des étudiants qui sont nés après.
Ben oui.
Là, je suis rendue là, fait qu'il faut maintenant qu'on leur explique ce que c'était.
Mon stagiaire, il y a plein d'affaires que je savais pas. Il était pas super à l'aise avec Oussama Ben Laden, il était pas super à l'aise avec...
Ben, je le connais, je suis pas à l'aise avec le gars
non plus. Non, t'es à l'aise.
Fucking à l'aise avec Oussama Ben Laden.
T'es à l'aise. Yo, il y a tellement de gens qui savent pas quoi faire dans la vie. Lui, il veut tuer l'Amérique.
Il y avait un objectif précis, ouais. Ça c'est sûr.
Il aimait pas Israël puis l'Amérique.
Ça, c'est
sûr. Les deux choses qu'il aimait pas. Des jeunes qui sont nés après puis qui ont pas vu ça, mais qui à chaque année voient ces images-là à la télé, ça fait pas de sens. Puis eux autres, ils ont vu New York.
Sans.
Ils voient le Ground Zero avec la chute, le mémorial et tout ça, mais tu sais, je veux dire, ils ont aucune idée de ce qu'a été New York avant, avec le World Trade Center. Fait que, tu sais, maintenant, quand on enseigne, ça fait partie de la...
De l'histoire.
Du défi, des amener à comprendre tout ça. Oh, tu sais, les premières fois, quand ils disent, ben madame, j'étais pas née, je dis comme...
Tu sais, moi, j'étais pas née à l'assassinat de Kennedy, mais je comprends que c'est quelque chose. Tu es le président américain à TV.
Ouais, mais il a fallu que tu l'assimiles puis qu'on te l'explique. Tu l'as pas vu live.
L'assimiler tout de suite.
Moi,
une de mes forces, c'est assimiler les assassinats politiques. J'assimile ça tout de suite.
C'est ta passion. C'est une passion.
Quand Oswald a une balle dans l'estomac, j'ai assimilé tout de suite.
Bon, super.
Mini parenthèse, dans le parrain 2, comment celui qui veut tuer le parrain, quand il se fait tuer avec une balle dans l'estomac, c'est inspiré de comment Oswald s'est fait tuer.
Ah,
ouvertement.
Ouais.
Dans l'estomac, un gars qui apparaît et qui crie son nom et qui tire dans l'estomac.
Ah. Ouais. Intéressant. Merci.
Pour finir les films historiques quand même, on regarde souvent les films américains, hollywoodiens, des fois les films européens aussi quand même, qui font comme Les Précieuses Ridicules, ça fait longtemps, mais ça, c'était un film qui était super bien fait au niveau historique, si la cour de Versailles vous intéressait. Mais on oublie que l'Asie fait des choses vraiment intéressantes de ce côté-là. Puis souvent, on ne connaît pas l'histoire de l'Inde ou l'histoire de la Chine ou du Japon. Ça vaut la peine maintenant, grâce aux plateformes de streaming, d'aller s'amuser là-dessus. Parce qu'Amazon Prime, honnêtement, et même Netflix, une base de données assez intéressante. T'sais, je peux vous citer un film indien quand même qui s'appelle Mohenjo-Daro, qui est sur...
Ça serait intéressant de l'appeler.
Oui. M-O-H-E-N-J-O Mohenjo.
Oui.
Daro. D-A-R-O.
Parfait.
J'ai réussi mon examen.
Non, mais... C'est pas pour toi, Mohenjo-Daro.
Mohenjo-Daro, en fait, c'est la civilisation.
Si tu savais, souvent, quand je fais des trucs avec Evelyne, elle me parle, puis je suis comme, parfait. Puis là, je me prends des notes, puis après, je vais googler plein d'affaires, puis je suis comme, ça sonnait même. Puis après, je valide. Je suis comme, c'est-tu elle que tu parlais tantôt?
Arrête-moi comme Thomas maintenant
dans le podcast. Écoute, mais ça
serait
même trop long.
Tu vas au Vietnam, puis je m'appelle Lefebvre. Oh, il y a un B, V, A. Il sait pas, là, c'est normal.
D'habitude, j'écris ça au tableau. Ouais. Là, j'en ai pas quand je suis dans un balado, c'est une super bonne intervention. Ouais. Mais donc, Mohenjo-Daro, qui est un film qui a été fait sur la civilisation de l'Indus, fait que ça, c'est une des plus anciennes civilisations qui a commercé avec les Sumériens, qui ont inventé l'écriture cunéiforme et tout ça en Mésopotamie. Puis d'ailleurs, avec les inondations au Pakistan, le site a été touché.
Oh non.
Alors, on est un peu inquiet de savoir ce qui va résulter de ça. Mm. Mais ils ont fait un film pour essayer de comprendre c'est quoi cette civilisation-là, parce qu'on a trouvé des vestiges chez les premières toilettes avec des canalisations. On a même trouvé des jouets d'enfants dans les tuyaux de bain, dans les appartements. C'est super ancien. On parle de plus de 3500 ans avant notre ère. Puis il y avait une espèce de grosse piscine. On s'est toujours demandé si c'était rituel ou pas. Fait qu'eux ont essayé de faire un film en essayant d'imaginer l'histoire. Mais c'est un film indien. Fait que des fois, il y a des pauses, parce que ça dure toujours 3 heures. Puis pour que les gens aillent aux toilettes pendant un film de 3 heures.
Il y a des chansons.
Tu as déjà vu du monde écouter un film indien dans une salle de cinéma indien?
Jamais.
Allez voir ça sur YouTube. Là, quand leurs héros arrivent, ils font tomber des confettis, puis le monde sont là. Là, je fais plein d'affaires, mais RRR est sorti récemment. Très bon film sur Netflix aussi, où on a réimaginé deux héros, en fait, de l'indépendance de l'Inde. On a réimaginé leur histoire s'ils s'étaient rencontrés. Les acteurs sont malades. Si vous voulez voir des effets spéciaux qui battent Hollywood, puis que vous êtes comme, c'est quoi ce qui vient d'arriver là? Je suis pas sûre que je comprends. C'est génial. Mais sur Twitter, le monde filmait les Indiens dans le sud de l'Inde voir leur héros arriver, héros de l'indépendance, mais leurs acteurs préférés. Puis là, à un moment donné, c'est la scène où le gars, il arrive, puis tu sais, en tout cas, c'est souvent très théâtral. Poum! Le plafond s'ouvre, il y a des confettis partout. Tout le monde se lève dans la salle, ils sont genre 300, puis ils crient, genre, ouais! Puis il y a de la grosse musique qui apparaît à ce moment-là. Puis là, après ça, le monde se rassoit, puis le film.
Génial!
C'est extraordinaire!
Wow! J'ai écouté un film en Inde, c'est
un souhait, oui.
Oui, c'est un souhait, c'est un rêve d'aller écouter un film dans un cinéma indien.
Ah, ben, ils ont le sens du spectacle, ça, c'est certain.
C'est fabuleux. Mais oui. Donc,
Mohenjo Daro, mais mon Dieu, moi, je verrais folle. Quelqu'un mange son popcorn un peu fort, puis je suis comme. Je pourrais pas, là.
C'est vrai qu'on écoute des films, des fois, de 1 heure, 2 heures, où on est vraiment immergeux. C'est pour ça qu'il y a des pauses avec de la danse et de la musique pour, comme, entre. Quand ils se payent un billet de cinéma, ben ça dure.
C'est un événement.
Aussi, c'est familial, puis tu sais que ça prenne du temps. Mais ils font des choses, donc, des fois, au niveau d'historique, ou même s'ils réimaginent l'histoire, c'est quand même assez fabuleux. Dans RRR, la madame, c'est celle qui faisait.
Comment t'appelles
ça? Le professeur Schneider.
RRR.
Le professeur Schneider dans Indiana Jones est là-dedans, puis j'ai comme fait.
Là, tu as lancé des confettis dans ton salon.
Oui, je le connais.
Elle en a toujours plein de bocaux sur sa table.
Elle me dit quelque chose, mais tu es rendue quand même âgée. Elle me dit quelque chose. Fait que là, tu sais, évidemment, on est rendu 2 écrans. J'écoute le film, puis là, je tape le nom du film pour voir c'est qui elle. Puis là, c'est comme, vous l'avez connue comme étant la professeure Schneider dans... dans Indiana Jones et la dernière croisade. Puis là, j'étais juste comme un peu fascinée. RRR sur Netflix. Écoutez-le en telugu, ça vaut la peine. C'est la langue d'origine. Telugu, c'est la deuxième langue la plus parlée après l'hindi en Inde. D'ailleurs, la troisième langue au Canada.
Ah,
ben oui, ouais, je connais plusieurs.
On a une grosse communauté, entre autres du sud de l'Inde, ici. Mais puis vous mettez les sous-titres en anglais ou en français, mais ça vaut vraiment la peine.
Mais ou vous faites comme...
Faire du bon intérêt.
Tu fais pendant 15 minutes, j'ai donné. C'est comme quand, au début, tu demandes des baguettes. Ouais. Après 10 minutes, tu fais, je vais prendre la fourchette. Je l'ai faite, là.
J'ai essayé,
là,
oui.
Là, je prends la fourchette.
Tu manges avec des baguettes à la comme maison, le gars qui est pas capable.
Pardonne-moi?
Moi, je mange avec des baguettes à temps plein.
Tu viens d'être hanté comme le gars qui est pas capable d'utiliser des baguettes.
Moi, j'essaye.
Mais moi, ça va, là, par contre. Ça
j'essaye.
Va, ça gère, oui.
Puis là, je fais, madame.
Est-ce que rien que...
Dans la nouvelle saison de Evelyne et Gabriel font un podcast que vous êtes en train de tourner.
Oui,
oui, on est en N'est-ce cours.
Pas? On est en cours. Ça sort début novembre.
C'est quoi vos nouveaux sujets? C'est quoi vos sujets préférés de
nous
cette
autres.
Saison-ci? Ils parlent de nous pendant notre histoire.
Non, mais les gens nous envoient beaucoup.
Ah, ben oui, c'est ça. Fait, comment vous avez choisi? C'est quoi vos sujets
de prédilection? Il y en a qui revenaient depuis plusieurs fois. T'sais, on s'est rendu compte que quand on enregistrait la deuxième, il y a des sujets qui avaient été demandés pour la deuxième qu'on n'avait pas eu le temps de faire qui revenaient pour la troisième. Si, je pense qu'on peut dire que c'était. Ouais. Une demande très
forte.
Généralisée de faire l'impératrice. Si, donc c'est fait.
Oui, fait oui. Mais en fait, les critères qu'on a souvent, c'est on prend les demandes des gens et puis, mais il faut que ça nous intéresse. Fait que le premier critère, c'est évidemment, si on veut en parler, il faut que ça nous tente d'en parler. Souvent, c'est moi qui va faire « Hey, Evelyne, j'ai le goût de parler de ça. » Puis Evelyne qui fait « Ah oh, oui, là, je connais 2-3 choses là-dessus. » Puis là, on en parle pendant 1 heure et quart.
Ouais.
Génial. Que... pendant que t'es là, il se passe de quoi d'historique? La reine est morte.
Ça s'est fait pendant mon cours universitaire.
Oh, wow!
J'étais en auto, puis là, un moment donné, je m'en vais à mon cours, je regarde mon cell, puis là, ils disent la BBC a interrompu sa programmation régulière. J'ai dit, ça y est, elle meurt là. J'arrive dans mon cours, c'est mon premier cours de la session. J'ai 125 étudiants universitaires, puis là, je leur dis, tu sais, ça se peut pendant le cours que la reine meurt. Je pensais pas que ça allait les émouvoir.
Ils ont été émus!
Ils ont pleuré!
Écoute, j'ai eu une demi-heure de cours à donner sur l'histoire de la monarchie britannique, ce qui s'en venait tellement il y avait de questions. Mon cours d'histoire de l'Antiquité s'est transformé en monarchie 101.
Wow.
Ils voulaient comprendre un peu ce qui était Charles. Ben, je leur dis, il parle super bien français. C'est celui qui parle le mieux français en fait de la guerre.
Moi, je suis
William
complètement, complètement traumatisée par ses doigts de saucisse. On peut-tu en parler?
Il a des gros doigts.
On peut-tu en parler?
Il a des gros doigts.
Mais il doit faire de la rétention
d'eau. C'est ce que j'allais dire. Je suis entièrement d'accord.
Il a des gros doigts.
Devant un problème de cardiaque.
Non, mais moi, ça m'angoisse parce qu'il porte une bague, puis je suis comme, ça
va prendre une pince. Elle va jamais sortir.
Ma grand-mère, ils l'ont fait.
Ils cassent le doigt?
Ils cassent le doigt.
Ah, bon move.
Ma grand-mère est morte avec son alliance. Elle n'avait jamais été capable de la sortir. Puis quand elle est morte pour la donner à mes tantes et tout ça, mon père, il était là. Ils ont cassé le doigt, ils ont sorti.
Bon,
mais c'est comme ça que ça se fait.
Bon. Complètement traumatisée par ses doigts de saucisse. Et j'espère, parce que tu sais, le décès de la reine, là, ça dure une semaine, là, toutes les festivités puis tout le kit. Fait que tu sais, il faut que Charles t'offre au moins 5 ans. Là. On ne peut pas se retaper ça dans 3 mois.
Non, mais lui, on l'aime pas, mais ça va être fait vite.
La logistique.
Il va chauffer,
c'est beaucoup trop lourd.
Il l'a dit dans son discours, il va rester jusqu'à la fin. Fait qu'il n'a pas l'intention d'abdiquer puis de laisser le trône à William depuis le temps qu'il attend ça.
C'est vrai.
On souhaitait tous qu'il laisse le trône
Que ça skip une génération.
Non, mais ça arrivera pas.
Non, mais tu sais, en même temps, il y en a peut-être pourquoi 10 ans. Il faut donner le temps à William aussi d'apprendre le français comme du monde, parce que lui, il parle pas très bien.
Mais juste ça à faire.
Et voilà, je lui donne ce temps-là, mais tu sais...
Un de nos amis, il travaillait en même temps, puis il l'a appris en, je pense, 10 mois.
C'est bon, 10 mois, c'est vraiment bon, parce qu'apprendre une langue, j'apprends le mandarin, puis ça va me prendre pendant 5 ans. Mais, ouais, c'est bon, 10 mois.
Il est bon, il est super bon, il est brillant, c'est même brillant.
C'est vraiment bon.
Il n'y a pas juste ça à faire. William, tu as juste ça à faire, là.
Ben voilà, il y a ça à faire, mais tu sais, ça va te donner le temps... Ça va lui donner le temps peut-être d'apprendre 2-3 trucs ou de voir comment il veut faire durer la monarchie, ou est-ce que Charles va l'achever puis William finalement aura peut-être pas le trône.
Moi, c'est ce que je pense aussi. Je me disais, est-ce que, mettons, tu sais, ils parlent tout le temps de The Firm, là. Ouais. Ils disent The Firm, là, pour les gens qui justement organisent tout ça derrière la façade.
Celle que Meghan Markle a diabolisé dans son entrevue avec Oprah.
Exact. Ouais. Puis je me disais, est-ce qu'eux, ils vont pousser pour que Charles laisse la place à William pour que justement la monarchie ne meure pas?
Pas parce que
jusqu'au bout.
Tu sais, j'ai fait le 150e de la Confédération à Ottawa avec Céline Galipo. Okay? Mm-hmm. J'étais avec Daniel Thibault, que je salue d'ailleurs.
Oui, salut,
parce
on les adore.
Il m'estimait. Il était comme, non, Charles ne sera pas roi. Les gens ne l'aiment pas. J'ai dit, ils vont respecter le protocole. Il va être roi. Fait que, Daniel, I was right.
Yeah! Ouais.
Je m'assumais en direct, mais j'avais raison à l'époque.
Mais tous ceux qui aiment la monarchie m'ont répondu la même chose.
Ouais.
Tous ceux qui sont un petit peu à l'extérieur disent, ben là, c'est clair que le gars n'a pas aimé, il va sauter. Tous ceux qui
c'est tellement rigide. Mm-hmm. Puis les Anglais, quelque part, oui, Diana, c'est sûr qu'ils en veulent, mais on dirait que quand ils vont, pas qu'ils lui ont pardonné, mais ils acceptent la situation parce qu'ils ont réalisé qu'il était heureux. Mm-hmm. Fait que des fois, de réaliser qu'un mariage forcé, ça, dans les deux côtés, c'était pas le fun, puis que lui, était avec une femme qu'il aime, d'ailleurs, il le dit tout de suite, aussitôt qu'il a fait son discours, tu sais, Camilla, hein, Camilla. Avec son accent très particulier. Je pense qu'ils sont prêts à lui pardonner. Mais en Angleterre, entre autres, je dis pas pour l'ensemble du Royaume-Uni, je dis pas pour le Commonwealth, vraiment pas, mais c'est sûr qu'en Angleterre, les gens espéraient que Charles ait sa chance quand même, parce qu'elle est morte vieille, quand Elisabeth. Mm-hmm. Puis je veux dire, ils savent très bien que c'est William qui l'a tout de suite après. Fait qu'ils sont pas nerveux, eux, de ce côté-là. Je pense pas qu'en Angleterre, ça va amener une révolution, mais il va sûrement avoir une diminution du budget, probablement alloué entre-temps. William va avoir moins de budget, je pense, que
bonne
ce qu'Elisabeth a eu. Là. Fait que Charles va comme être la transition entre les deux, mais c'est sûr qu'en dehors de ça, de payer pour la monarchie, on s'attend que la prochaine décennie, une fois qu'on va avoir réglé plein de problèmes avec la pandémie, une troisième guerre mondiale et autres, on va peut-être être rendu à en parler, mais pas là. Moi, c'est ça que je dis aux étudiants. Je dis, présentement, ce serait un gaspillage de temps, d'argent, plein d'affaires d'entrer là-dedans, quand, avec tout ce qui se passe dans la plupart des pays, on a tellement d'autres choses à gérer que c'est...
La crise climatique.
C'est ça, c'est pas le temps d'aborder ça. Et Charles est le roi de l'environnement. Il faut quand même comprendre qu'il parlait d'écologie avant tout le monde dans les années 80, lui. Il y a ses jardins, il essayait de sauver des plantes indigènes.
Ses voitures aussi, ses voitures qui émettent moins d'essence.
Il y a même, lui, aussitôt que la voiture électrique est arrivée, il a essayé d'embarquer là-dedans. Puis je veux dire, il parlait d'écologie, c'est ça, dans les années 80. C'est le roi de l'environnement qui vient d'arriver sur le trône d'Angleterre. Puis c'est souvent, quand il pouvait s'exprimer, là, il ne pourra plus, puis il le dit qu'il va faire attention. Mais il s'est souvent heurté au Parlement britannique parce qu'il n'aimait pas des décisions qui étaient prises à cet égard-là. Fait que, tu sais, on parle de crise climatique, là-dessus, il va peut-être jouer son rôle. Il peut être assez...
Let's go, Charles!
Oui!
Ben, donnez-y une chance! Moi, c'est ça que je dis, là! Il fait plus de temps qu'il
attend!
Il y a une histoire tellement tragique à cet égard-là. Je suis comme, bon, ben, regarde, tu l'as, là, t'es vieux. C'est triste d'être roi à cet âge-là, quand même.
Je comprends.
Ben, il y a des gens qui vont...
Il y a des gens qui le seront jamais.
Ben, il y a des gens qui rentrent dans des CHSLD, ils n'ont pas de moyens, ils ont un bain par semaine, mais lui, il est roi un peu vieux, tu sais.
Parce que
les autres vieux dans notre société sont super bien traités. C'est le vieux qui souffre le plus en Occident.
Pauvre petit loup.
Mais oui. Il a juste jamais travaillé de sa vie.
C'est tellement le roi de l'environnement qui a remplacé la couronne par celle de Midsommar. C'est juste des fleurs.
Ah mon Dieu.
Let's go, mon amour.
Oh,
c'est bon, c'est bon, bon. Je l'aime.
Merci.
Je pense que ça va finir pareil. Hein? Il va danser.
Ça va finir pareil, oui.
Non, mais regarde, The Crown est revenu sur ma liste Netflix comme étant la troisième série la plus écoutée. Que les gens s'intéressent à ça, qu'on le veuille ou non. Moi, ça m'étonne. Comme j'ai des jeunes, le nombre de questions qu'il y avait là-dessus, c'était comme, notre monnaie va changer. Il va apparaître sur notre monnaie. J'étais comme, ouais, c'est sûr que la vieille va être encore bonne, mais c'est sûr qu'éventuellement, il va avoir sa face sur les 1$, mettons, pour les 20. Puis les jeunes, t'es comme, ah, full cool, ben, ils textaient ça. Puis j'ai même.
Non, ils sont pas bêtes, tes jeunes. Ils sont pas bien, c'est sérieux,
ça,
là.
Je comprenais pas, mais en plus, c'est qu'il y a une
étudiante... Tu textes ton ami, mais c'est qu'est-ce qu'il
m'a... Il y a une étudiante qui vient me voir, puis elle me dit, mon père a une question à la pause.
Ah, j'ai bien fait
de comprendre. Mon père a une question, mais son père... Ça s'est passé de texter sa fille pour
qu'elle
me questionne.
Ah, oh, j'aime ça!
Je donne un cours d'histoire de l'Antiquité, tu sais, là, je t'ai rendue comme la spécialiste de la monarchie britannique.
C'est donc bien drôle.
Ouais, je vais m'en rappeler.
Non, c'est... Nous, mais c'était quoi sa question? Voyons,
oui,
on veut bien savoir.
Savoir si le Canada allait tout de suite rejeter Charles, puis que ça allait être la fin.
On a-tu le droit?
Ben,
on a-tu le droit de faire ça?
On a le droit.
Il y a une démarche légale à faire, c'est pour ça que là, on a...
Mais mettons, je peux-tu l'entamer? Ou comme il faut que ça vienne de plus
t'as
loin.
T'as pas cette influence-là.
Non, mais c'est une question.
La seule que je peux le faire, c'est Lisanne Nadeau. Lisanne Nadeau pourrait faire ça. Lisanne Nadeau pourrait partir ce mouvement-là. Ce serait génial que Lisanne Nadeau se réveille un matin, elle fait une série de stories en disant hey, « Gang, j'ai pensé à ça. Le Canada dans monarchie chitanée. »
Une matrice de podcast.
Oh, aussi. Ouais!
Complètement dépassée.
C'est
qui
pas
est
grave.
Lisanne Nadeau?
C'est pas grave. C'est une question de génération. Les jeunes, ils connaissent pas Véro, puis toi, tu connais pas Lisanne Nadeau.
C'est correct.
Mais ça, c'est vrai. T'sais, on le voit dans les cours aussi.
Mais oui.
Guy Lepage, des fois, ils sont pas sûrs.
Je comprends.
Mes jeunes.
Je comprends.
Ah ouais. C'est ça.
Oh,
ouais.
Mon Dieu. Fait que là, tu étais censé parler d'antiquité, puis là, tu fais jouer de toune.
Ah, c'était.
C'est pas une demi-heure à faire jouer de toune.
Des petits sketchs de RBO.
À un moment donné, je pense qu'au cégep, je vais peut-être être rendu, il va falloir que je le fasse, pour que je leur en montre. Mais je les ai traumatisés avec à plein temps dans un cours de médias. Et leur montre l'évolution des médias. Oh. Tu seras tapé à plein temps, mais si tu veux, l'horreur de la télévision québécoise incarnée, là, ça m'aurait étonné vu ton âge, cher. Mais j'étais jeune quand ça jouait, mais c'était des marionnettes et des humains dans un téléroman.
Ah, c'est bon,
c'était
ça.
Passé le soir. Vous allez sur YouTube, vous tapez à plein temps, vous allez voir Madame Bourrette, qui est une vieille madame avec des robes fleuries, qui est une marionnette, qui habite dans un bloc appartement et qui interagit avec les acteurs québécois. Vous voulez la quintessence de notre télévision.
C'est pas clair si les relations marionnettes-humains sont permises.
Ah, c'est comme s'ils baissent ensemble. C'est surtout ce qu'ils baissent ensemble.
C'est pas clair. Il y a des tensions, il y a des coups.
J'aime ça. C'est Canel et Bruno au niveau...
Ah oui, oui. Là, puis, tu sais, puis il l'accuse jamais. Tu sais, il y a jamais mention. Mais oui, je sais quoi. Mais oui, je sais quoi, parce que j'ai déjà googlé ça.
Ah, t'as googlé ça.
C'est des marionnettes humaines ou c'est des furries?
Non, mais c'est parce que quand avant, Radio-Canada, il y avait le costumier. Maintenant, il n'existe plus.
Je comprends.
Mais il fut un temps où je suis allée à Radio-Canada, j'ai visité le costumier, je suis tombée face à face avec Mme Bourrette. J'ai fait...
Des terrains nocturnes. Ben oui, je comprends.
La meilleure émission de télé, un petit peu épeurante, c'était Il y a plein de soleil. Parce que c'était le dimanche, puis souvent, j'écoutais ça le lendemain de veille ou quand j'avais pas dormi. Comme toi, t'es le lendemain de speed, tu allumes ça, puis il y a des vieux qui chantent des chansons en chœur, là. C'est particulier.
Ben, l'évangile en papier aussi.
Il y a plein de soleil. Il y a plein de soleil dans
font...
aux maisons. Il y a plein de soleil. Il y a plein de soleil.
C'est qu'à Radio-Canada, ils ont Radio-Canada, ont décidé...
Clairement, j'écoutais pas ça.
Ils ont décidé, on va filmer un corpo dans une maison de vieux puis mettre ça sur nos ongles.
Oui.
C'est vraiment ça.
Comme les soirées canadiennes.
Ouais. Oui. Ça existe, je comprends, qu'ils mettent ça sur nos ongles. Ça finit plus de finir. C'est long, là.
C'est pas moi, je vais googler ça.
Grande question. Je me suis toujours posé la question. Peut-être qu'ils le font déjà puis je suis en retard. Tu sais, il y a la messe à TV à Radio-Canada.
Encore?
Ouais, non, ouais, c'est
pas fini. À ce manche, il en passe encore des extraits.
Ah ouais? T'es couché, mon amour, c'est pour ça. Je me suis toujours posé la question, pourquoi il n'y a pas des messes de différentes religions?
Ben, ils vont l'avoir, mais par leur poste de radio, en fait, c'est souvent
mais mettons,
la radio.
Une journée, ça serait la messe catholique, protestante, islam, les sunnites, ensuite les chiites, mais, ensuite de quoi de bout.
Mais peut-être qu'ils l'ont sur leur satellite.
C'est pas une question pour avoir accès.
C'est que tu veux découvrir ça.
Oui!
Mais tu peux voyager aussi. Si tu veux te faire réveiller à 5 heures du matin par des haut-parleurs dans une rue, là,
non,
l'appel à la prière
on a
des
l'appel
mosquées,
à la
prière. Là,
ça moi,
on a ça, l'appel à la prière.
Ben, quand les églises, les cloches sonnent, ça, tu sais, ça, en tout cas. Mais l'autre jour, sur YouTube, j'ai recherché, excusez-moi, mauvais terme, mais enfin, la messe, parce que c'est le nom du podcast de notre ancien tech Nico que je salue. Et là, j'ai écrit juste la messe.
Oh, mais non, mais
et
là,
depuis, dans mon algorithme, j'ai plein de messes cathos.
Mmh. Ah,
non, je vous jure, je pensais pas que ça allait fucker mon affaire de même. Eux, ils ont tout de suite fait genre en
fin. Oh, elle a un appel.
Ah, oui,
on va pas la lâcher.
Oui,
là.
Dieu, oui.
Je vous jure. Fait que là, j'ai un mélange de genre podcast, true crime, ASMR weird que j'écoute. Des trucs
des
pour
messes.
Enfants, puis là, des messes.
Puis des tondeuses à nez.
Bon.
J'ai le meilleur YouTube ever.
Oui, mais quand j'étais adolescent, ce que je regardais, c'est les méga church.
Mm-hmm.
Les gars protestants dans des grosses églises, des églises de 20 000 personnes, là, qui disent n'importe quoi, là, c'est génial.
Des preachers, vraiment, là.
Ceux qui crient,
qui ont des micros, puis là, ils sont comme... Ah, c'est un show, là, mais chrétien.
Genre. C'est plus imaginez-vous la scène dans The Wolf of Wall Street où il fait du stand-up un peu puis il crie « Je m'en irai pas ». C'est ça pendant une heure et demie.
Ouais.
C'est beaucoup de la motivation. C'est beaucoup de dans le fond, Dieu, si t'es pauvre, c'est de ta faute. Là. Dieu voulait.
C'est un petit mélange. Tu mets dans un shaker un prêtre et un coach de vie. Tu shakes.
Oui.
Ça,
oui.
Ça,
oh, ouais.
Mais il y a beaucoup plus de coach de vie que de prêtre.
Ben, puis la ligne est mince entre endoctrinement et motivation.
Il n'y a pas de ligne. Il n'y a pas de ligne.
C'est complètement
pas de ligne.
Oui, voilà.
Ouais.
Ouais.
Ouais, genre, ouais.
Pourquoi il crie tout le temps? C'est ça.
C'est ça. Il a appris des meilleurs. C'est ça, là. Bon, mais là, parlant de religion, ça m'amène sur un sujet que je voulais toucher avec vous parce que je sais que t'aimes bien les sorcières, Gabrielle.
J'adore les sorcières.
Pas au courant de pas toutes.
J'ai entendu parler de ça.
L'Halloween s'en vient, comme dirait ma fille, la fête des bonbons, parce que sinon, ça y fait peur.
Il est jeune, non?
Oui, il est très jeune, fait qu'il a fallu encadrer ça d'une certaine façon. Mais j'aimerais
parler... Tu vas la déguiser en Reine des Neiges, comme toutes les petites filles.
Ah, très pas?
Non, pas ça.
Oh, yeah!
Way to go!
C'est vrai d'être un petit chat ou un petit lapin
ou
un petit animal.
Oui, c'est tellement cute.
Ou on fait comme ben les parents, on les déguise en... Mettons, moi, je la déguise en Tom Brady. Là.
Ah oui, en joke pour nous autres.
Ouais, ouais. C'est terrible,
j'aime ça.
C'est terrible.
Les gens juste comme...
Mais j'ai vu l'autre jour, justement, c'était deux petits-enfants. Un déguisé en Van Gogh, puis l'autre déguisé en une toile de Van Gogh.
Oh.
Puis là, c'était comme vraiment... C'était ingénieux, mais en même temps, comme les commentaires, c'était genre, probablement que lui, il voulait déguiser en Pat Patrouille, tu sais, genre, laisse-les, mm-hmm. comme,
ah,
ouais. vivre
mais
un
ça,
peu secret,
tu peux la déguiser comme les costumes des années 1900,
1910,
1920.
C'est
quand
terrifiant.
Vous
ah, oui,
gueule,
ah oui, ah oui, terrifiant.
Le but, c'était de faire peur.
Oui,
les enfants étaient vraiment effrayants. Ça, c'est un vrai costume.
Ça, j'aime ça.
Ouais,
ça, j'aime
c'est
ça.
Vrai. Les photos vintage où tu fais comme, oh, OK.
Oui,
pourtant, le matériel coûte rien, là, mais...
Ah oui, c'est terrifiant.
Blanc, puis t'es...
Puis ils te fixent dans l'objectif ouais. aussi avec leur
oui,
cagoule
pas
claire.
Oui, pendant quelques oui. secondes, vu la technologie de l'époque.
Horrible. Oh, oui. Mais c'est quoi ta question sur les sorcières?
Ma question, en fait, c'est l'ouverture sur un sujet que j'adore, qui est les sorcières de Salem. Donc, je suis une grosse fan aussi du podcast The Last Podcast on the Left, que je recommande à tous qui touchent à l'occulte, les sectes, un peu
the
true crime.
The Last Podcast on the Left.
Ouais, exactement. Que j'adore, qui ont récemment fêté leur 500e épisode.
Ouh.
Et pour l'occasion, ils ont parlé.
Oui.
Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment, ça fait une couple d'années, vraiment.
Oui, c'est pas les faire, leur donner des contrats. C'est sont très.
Ouais, ouais,
très
mais c'est ouais. quelque chose de bien installé. Bref, fait que, tu sais, si vous voulez faire du rattrapage, ils touchent vraiment à plein de sujets vraiment intéressants. Jeffrey Dahmer, notamment, que là, qui est de retour.
Dessin graphique, pas dessin graphique, bande dessinée, roman graphique, merci, c'est ça que je voulais dire. Roman graphique sur la jeunesse de Jeffrey Dahmer, d'un gars qui est allé à l'école avec lui,
wow.
puis qui raconte un peu son...
son intérêt pour les... disséquer les petites bêtes.
Ben oui, mais aussi, là, tu sais, il était à l'école, il se faisait niaiser, moi j'y parlais, mais ça, puis là, pendant ce temps-là, il se pratiquait à tuer des enfants. Fait que ça s'appelle « My, pas tuer des enfants, tuer des petits animaux ». Fait que des enfants animaux, c'est ça que je voulais dire.
Des enfants animaux! Des enfants animaux!
Il nous appelle « My friend Dahmer », si jamais.
Ah, lui, il était ami avec, puis il n'est pas comme les autres, génial.
Ouais.
Il a l'air intègre
non,
dans toute
mais
ta
parce
démarche.
Que, non, mais moi, j'ai découvert ça, ce livre-là, parce que des fois, le true crime, je suis comme, c'est un peu too much, là, moi, voir les faces des victimes, puis voir les... Tu sais, comme ça me...
C'est trop... sur YouTube, des fois, de la façon dont c'est présenté.
Oui, comme ouais. pour moi, c'est trop... TV. Mais ça, c'est comme dessiné, fait que t'en apprends, mais c'est pas genre, voici la scène de crime avec encore du sang à terre, fait que
ouais.
voilà.
Puis surtout que lui, c'est pas mal graphique aussi.
Ouais, alors... Donc, les sorcières.
Donc, les sorcières. Donc, pour revenir, c'est ça, à ce fabuleux podcast, mais là, c'est ça, ils ont fait leur 500e épisode avec une série sur les sorcières de Salem, très intéressant, mais je voulais en parler avec vous aujourd'hui parce que c'est un sujet, je trouve, super riche au niveau féministe,
oui.
au niveau historique, politique, religieux. On dirait qu'il y a tellement de couches là-dedans.
Mmh. Ben, on parle d'endoctrinement.
C'est un peu ça. Mettons en contexte l'époque des sorcières de Salem, ça se déroule à quelle époque?
Là, ça me prend mes dates fixes.
Ah, t'es pas obligé de dire les dates.
Bien, on a fait un épisode sur les sorcières
ouais.
où on parle vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup des sorcières de Salem. Mais moi, ce que j'avais déjà dit quand on en a parlé, c'est que ça se passait ici. Mmh. Tu sais, on a l'impression que tous les procès de sorcières, c'est tout le temps en Europe, les bûchers et tout, mais là, il y a eu des exécutions pour sorcellerie. Ici, Boston, c'est à côté, là. Mmh. Tu prends ton auto un peu motivé, tu fais ça une journée. Tu sais, c'est vraiment... Ça s'est passé ici et il était jeunes, les accusatrices. Mm-hmm. Aussi, c'était toutes des enfants. Exact.
C'était des familles dans des communautés hyper puritaines. Tu sais, je veux dire, la langue, tu sais, s'ennuyer des fois. Ils sont comme ça. Bon, les enfants, ennuyez-vous.
Mais ça peut s'engénérer, là.
Ça m'a beaucoup marqué quand j'ai lu puis que j'ai écouté sur ce sujet-là. C'est ça, c'est que c'était des filles qui accusaient des femmes.
Mm-hmm. Oui, mais des femmes qui étaient marginales. C'est tout le temps ça, le principe de la sorcellerie. Puis c'est sûr qu'il faut comprendre que le Massachusetts, comme pas mal de communautés de la Nouvelle-Angleterre, quand on pense à la Virginie ou autre, il y a beaucoup de gens qui, quand on va commencer l'immigration au 17e, même encore au 18e siècle, ce sont des gens qui appartiennent à ce qu'on considère maintenant des sectes en Angleterre. Il y a l'anglicanisme protestantiste, puis si tu sors de ce cadre-là, out!
Oui, parce que le but au départ des États-Unis, c'était de vivre ta religion comme
librement, tu voulais. Fait que les Quakers qui vont arriver parce qu'ils sont justement très puritains. Et au Massachusetts, on a différentes communautés.
Mais ton christianisme, comme tu voulais.
Ben, c'est un protestantisme, des fois, qui peut être à géométrie très variable selon où tu habites. Puis au Massachusetts, ben c'est ça, tu avais des communautés qui étaient ultra puritaines, tu sais, je veux dire, où on respectait, tu sais, je veux dire, tu savais quelle position tu avais le droit de faire au lit, tu sais, parce que sinon, ben, tu sais, Dieu serait pas content. On respectait même au niveau de la division du travail. Il fallait vraiment qu'il y ait une division très, très claire entre le temps que tu passes à travailler, le temps que tu passes à prier ou du moins à honorer Dieu ou à faire des travaux à l'église et tout ça, tu sais, pour l'entretenir, de servir ta communauté. Fait que on avait une communauté qui se disait très soudée, c'est serré, mais qui, dans les faits, était endoctriné par la peur de l'enfer d'un côté et de tout ce qui avait un lien avec le diable. Mais tu es à une époque où la médecine est de la bouette. Non, si je suis dans un podcast, je peux pas toujours utiliser mon langage radio-canadien.
J'aime que pour toi, bouette, ce soit Eve.
Si je dis ça, Radio-Canada, t'as-tu une idée du nombre de courriels que je vais recevoir? Mais disons que...
Hey, mais tu sais-tu, OK, je fais une parenthèse sur Radio-Canada, là, mais j'ai vieilli et je l'ai su cette semaine parce que j'écoutais la radio de Radio-Canada et il y a une madame qui a employé le mot « feel », puis j'étais genre « mais voyons, on dit pas « feel » à Radio-Canada, je vais écrire à l'Ombudsman », puis là, j'étais genre « oh mon Dieu, mais reviens », et
maintenant,
c'est là…
Maintenant, t'as pas besoin d'écrire à l'Ombudsman, je l'écris via les réseaux sociaux à la personne.
En majuscule.
C'est arrivé une fois dans une chronique, OK, une fois que j'ai échappé à un salaud, OK, parce que j'ai mal fait ma contraction. J'avais 3 courriels de gens qui m'ont dit « Madame Ferron, nous sommes tellement déçus, vous aviez toujours évité ce piège. »
Ils sont déçus!
Là, j'ai comme,
hey, ça, c'est pire qu'être choquée!
Je parle vite, c'est direct, tu sais. Puis là, il y en a même qui ont tapé la phrase pour que je sache exactement où je l'ai échappé plus jamais que je reprononce « ça là ». Tu sais, là, j'étais comme… Salah, Salem, tu vois, on est encore dans le dos. Mais ouais, fait que voilà, des fois, je dis je suis comme... J'ai peur de la police de la langue.
On est correct.
Oui, non, mais tu peux, là. Tu peux même dire que c'est de la merde, si tu veux. Vas-y.
Laisse-toi aller.
Il y a des choses qui sont dites ici.
Mais bref, dans cet univers, les gens sont aussi... La médecine, justement, là, tu sais, c'est de la merde.
C'est bien, hein?
Ça fait vraiment du bien.
Là, on pourra plus se retenir. Dimanche prochain, ça va être la débandade.
On a brisé Evelyne.
Et que les gens Radio-Canada se demandent ce qui s'est passé.
C'est notre faute.
C'est ici que ça s'est passé.
On fait de l'endoctrinement de la langue.
Mais c'est ça, les gens aussi, les maladies. Les vampires, ça naît toutes de ces mêmes époques-là, dans le sens où il y a des maladies contagieuses qu'on ne comprend pas, puis on pense que c'est souvent des gens qui ont eu un contact avec le diable. On leur dit, quand vous faites des choses pas correctes, voilà ce qui arrive, vous allez mourir dans d'atroces souffrances.
Mais la bonne
plus,
nouvelle,
vous allez revenir en revenant, puis vous allez attaquer
nouvelle,
les autres.
C'est
lié à ça.
Ce schéma de pensée-là, il est terminé. Parce que ça arrive pas. Ben, on l'a vu maintenant, il y a une pandémie, puis tout le monde réagit bien.
Oui, tout le monde veut se vacciner, tout le monde croit en la science.
Il n'y a pas d'invention, les gens y croient pas qu'il y a des complots. Ben voilà.
Mais avec les
sociaux... Ça, c'est encore plus choquant que tout ce que
tu as. Attends, la NASA, je vous jure, si vous voulez me faire un cadeau d'envie, ils ont une épinglette maintenant, c'est écrit « Round, we checked ».
Ma grande question, c'est à part Kyrie Irving puis Shaquille O'Neal, qui croit à ça?
La Template?
La Template. Ouais.
T'avais même une conseillère municipale à Gatineau qui s'est faite
mettre
dehors.
C'est Gatineau, comme je m'attendais que le monde à Gatineau croit ça. Comme bien sûr. C'est sans doute Gatineau. Puis si, je suis sûr qu'il y en a une à Gatineau, mais ils ont accepté, en fait. Si on met dehors tout le monde, c'est le côté de l'administration qui croit que la Terre est plate, on n'aura personne pour faire fonctionner la ville. Alors, on l'accepte.
Des fois, sur ma page historiophile où je mets des actualités en histoire, à un moment donné, j'avais mis l'évolution des crânes des hominidés jusqu'à Homo sapiens, puis je l'aimais parce que c'était écrit « I don't believe in evolution. » OK? « I understand the facts. » Puis je me suis fait envoyer des messages de gens qui étaient déçus que sur ma page d'histoire, j'ose confronter leurs croyances puis jouer avec ces mots-là. Mais tu sais, j'ai juste partagé, en fait, en plus, la publication. Puis j'étais comme, oui, il y a beaucoup de monde qui sont dans ces univers parallèles de croyances, puis plus nombreux que tu pourrais l'imaginer, l'historienne te le dit.
OK, voici ce que j'avance.
Les pyramides ont été construites.
Écoute-moi.
On va pas te starter.
C'est super important. Si tu crois que la Terre est plate, elle reviendra pas, ta femme. C'est terminé. Elle reviendra pas. Mais tu peux continuer. Il y a d'autres choses dans la vie. Mets ton énergie ailleurs. Elle reviendra pas. Pis c'est pas nécessairement une bonne chose. Toi, tu te souviens, t'as nostalgie puis t'as pensé que votre relation était super. T'es pas super. Elle tapait ses nerfs. Tu y tapais ses nerfs. C'est mieux de même. Elle reviendra pas. C'est correct. Bon.
Oui,
exactement. Mais tu disais aussi que toutes celles qui ont été accusées, c'était souvent des femmes marginalisées, fait que des femmes plus vieilles, des itinérantes.
Qui
mais je pense qu'il y a aussi l'élément Tituba.
Oui. Ah oui,
parce que c'était, ben, tu peux peut-être raconter un peu.
Elle venait des Antilles. En fait, elle avait été ramenée par un des hommes importants de la communauté de Salem comme esclave. Puis les deux filles, en fait, qui ont commencé à figer puis à faire des symptômes étranges qui vont amener les inquiétudes. Puis ce qu'on peut appeler une paranoïa collective, c'est vraiment ça, Salem, à un moment donné, où on a tellement peur après ça que ça tombe sur nous qu'on va accuser les autres pour ne pas se faire tuer. Ben, Tituba, elle est noire, elle vient de la communauté des Antilles, ou vaudou et toutes ces choses-là. Tu sais, on a un peu peur du côté, je dirais, d'anciennes pratiques magiques de ces communautés-là. Puis les deux jeunes filles, ben, c'est sûr que leur père, une des deux filles, le père s'est remarié aussi là-dedans, le fait qu'elle ne digérait pas ça non plus. T'as 10 ans, il n'y a pas de YouTube, il n'y a pas de télé, il n'y a pas d'Internet, il n'y a absolument rien en fait pour te divertir. Tu es dans une des communautés les plus puritaines de l'histoire, fait que vraiment, le plaisir n'existe pas. Ben, tu tombes sur les livres dans la bibliothèque de ton père, puis il y a un livre qui a été écrit par Cotton Mather, il me semble que c'est Mather, en tout cas, Cotton, c'est son prénom, où il avait essayé d'expliquer justement comment on peut reconnaître qu'une femme a une relation illicite avec le diable. Puis quand une femme fait justement de la sorcellerie...
Ça me
fait
des relations illicites, comme s'il y avait des relations tout à fait
légitimes
avec le diable.
Si t'amènes sur deux dates, après c'est correct, là. C'est correct.
Juste pour coucher avec le diable le premier soir.
Exactement ça. Fait que là, tu lis ça parce que t'as rien d'autre à faire. Puis là, tu sais, ils te disent, ben, tu sais, que si jamais quelqu'un, une sorcière veut t'attaquer, ben, tu sais, justement, tu vas avoir des convulsions parce qu'on a souvent associé l'épilepsie, d'ailleurs, qu'on comprenait pas, à des gens qui étaient possédés par le démon. Fait que tout ça. Fait que là, la petite fille, elle lit ça, puis elle se dit, ah, ouais, fait que si j'agis, puis je fais comme ça, ben le monde va penser que Tituba ou peut-être la nouvelle femme de mon père, ben, c'est des sorcières.
Mais c'est un truc qu'il a observé chez les exorcistes. Quand ils font les exorcismes, ils vont faire « Hey, la petite fille, elle parle en latin, elle ne savait pas le latin. » Mais elle répète ce que le prêtre lui dit en latin, parce que l'exorcisme est en latin.
Oui, puis des fois, tu peux avoir lu quelque chose, puis avoir rêvé à ça après. Puis tu sais, le cerveau est quand même une machine fabuleuse. Hein? Fait qu'ils vont faire ça. Ils vont
on a inventé Star Trek, là. On peut inventer plein d'affaires.
Ils vont voir des
Pourquoi Star Trek, pour moi, c'est l'invention la plus grande
de toute
de l'histoire
de l'humanité, ouais.
Des
la
bonhommes.
Roue, l'électricité.
Star Trek.
J'ai des pas d'information en Star Trek. Je connais tellement rien.
Le vaisseau, il voyage quand même avec de l'antimatière. C'est pas rien.
C'est pas rien, man. Fallait penser à ça, là. Fallait penser à ça.
Mais on en avait déjà parlé de ça, que dans le fond, ce qui s'est passé, là, c'est que les petites filles, ils figent. Puis là, tout le monde fait comme, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, les filles? Puis là, après, ils font, oh mon Dieu, on était possédés à cause de Tituba. Et là, ils ont tué plein de monde basé sur des enfants qui figent, là. Puis moi, je veux dire, parce que moi, j'en ai des enfants, là. Mes enfants, des fois, ils figent. Puis je suis comme, hey, là, tu vas prendre tes affaires, on embraye en matin, je suis pressée.
Ben, ça ment, un enfant.
Mais tu sais, je fais
mais
pas
ça
genre.
Joue, ça.
Qu'est-ce
ça
qui
Non, ça ment. Ça ment. Ça ment, un enfant. Ça sait ce que ça fait. Je le sais. Tu m'auras pas.
Des fois, elle dit caca, puis on sait que non.
C'est pas ça. Arrête. Je le sais que tu mens.
Elle essaie juste de pas aller
Tout
se coucher.
Tout est contre moi.
Mais c'est ça. Moi, c'est ça que je trouvais fascinant. Ils sont deux. Après ça, il y en a d'autres qui ont embarqué dans le mouvement. Mais je veux dire, n'importe quel adulte sensé aurait fait... Ah oui, OK, parfait, on enchaîne. Il n'y aurait pas fait. Qui t'a fait ça? Qui t'a... Montre-moi là, on va le tuer. Tu sais, comme ça, ouais. Ouais, complètement
elles
dégénéré.
Elles avaient 10 ans, 11 ans, elles étaient quand même.
Ils étaient vieilles pour faire des niaiseries de même, là.
Mais dans une communauté où tu n'as rien d'autre à faire puis que tu veux t'amuser comme un tout près ado, ben c'est ça que ça donne.
Ouais,
tu peux pas aller chercher de la bière dans le frigo, il n'y en a pas. Ouais. Fait que c'est ça que tu fais.
Tu crées des procès pour que des femmes se fassent pendre.
On va profiter de ça pour chercher des coupables. Oui, Tituba, c'est sûr qu'elle arrive vraiment en numéro un parce qu'elle est noire, elle est différente et tout ça. Mais il y a le fait que vous avez la deuxième, c'est une femme âgée qui vit un petit peu à l'extérieur de la communauté puis qui connaît les plantes.
J'ai lu aussi sur Tituba un truc qu'il faut mentionner. Là, c'est, je comprends que ça va un peu salir son personnage, mais souvent, elle faisait...
Oui,
elle venait aussi avec fallait l'exécuter.
Elle venait aussi avec sa propre culture à elle, fait qu'elle faisait probablement des recettes différentes. Elle avait de la médecine différente. Elle faisait un onguent qu'eux, ils n'avaient jamais vu, qui pouvait calmer...
Ben, elle avait même un accent, tu sais, quand tu y penses. Il y a tout ça qui vient avec ça, sauf qu'à un moment donné, là, on va commencer à ouvrir les procès de Salem. Mm-hmm. Et quand les gens vont réaliser qu'on utilise l'ancien marteau des sorcières et le livre de Cottonmayer pour identifier qu'est-ce qui peut faire en sorte que cette femme-là est une sorcière, on est à une époque où, si tu te fais accuser d'être sorcière, t'es baisé d'une façon ou d'une autre. Parce que si jamais t'en es pas une, on va le savoir en te tuant. Non, tant pis.
Oups.
T'en étais pas eu.
On s'excuse.
Ouais. Au moins, t'es au paradis. Au moins, t'es libéré pour au paradis. Puis,
ouais. Puis tu sais, finalement, si t'en es une, on est bien content de t'avoir fait mourir dans d'atroces souffrances. Mm-hmm. Je veux dire, c'est comme un petit peu.
C'est comme, c'est quoi le supplice, là, sur le bord de l'eau? Genre, on t'attache à la chaise. Fait qu'on t'attache sur une chaise, puis on te pitche dans l'eau. Si tu meurs, t'étais pas une sorcière, donc on est désolé, mais t'as eu une belle mort chrétienne. Puis si tu meurs pas, j'imagine que tu vas revenir, puis on va te tuer. Après.
La croyance dit que la sorcière ne peut pas couler.
Ah oui, c'est ça.
Parce qu'elle vole. Ça elle a le pouvoir de voler, donc elle flotte.
Mon Dieu.
Oh, et ça, c'est une des
You're
choses.
You're damn if you do, damn if you don't.
Et voilà.
Mais tu sais, ce qu'il y a de nuit, c'est que Tituba a tellement eu peur aussi qu'elle a fini par admettre.
Ben oui.
Puis là,
comme quand tu fais torturer,
accuser d'autres personnes. Puis quand t'accuses d'autres personnes comme ça, ben là, à un moment donné, les gens se sont dit, hey, elle, là. Je pense qu'elle couche avec mon mari, fait que check moi, ben m'en débarrasse. Mm-hmm. C'est ça, la paranoïa collective, c'est qu'on s'est servi de la sorcellerie aussi comme d'une arme pour tuer plein de femmes. D'ailleurs, c'est partout dans le monde. L'Écosse vient juste là, de pardonner une centaine de femmes qui ont été accusées de sorcellerie au Moyen-Âge, puis il n'y avait jamais fait de pardon officiel pour ces femmes-là. Ça vient juste d'être fait.
Puis il n'y a pas de sorcier, c'est rien que les femmes.
C'est juste des femmes. Wow. Les sorciers, ça peut exister. Il y en avait au Moyen-Âge et tout ça, mais ils étaient associés par l'Inquisition catholique, plus à des hommes qui essayaient de manipuler. C'était pas la même façon. Le sorcier va plus manipuler par, justement, la médecine. Ou, t'sais, il va,
alchimiste.
C'est un charlatan. Oui, un peu un alchimiste.
C'est
un charlatan.
Moins grave.
Ou pire, il écrit. Il écrit des livres que l'Église n'aime pas.
Mais on avait aussi parlé des astrologues, là, tu sais, parce que, mettons, Catherine de Médicis, j'aime full.
Nostradamus,
elle avait son astrologue personnel, puis elle était comme là, est-ce que j'entre en guerre ou non? Nostradamus, parle-moi. Puis là, il faisait selon les astres, je pense que oui, ou il faisait des prédictions. Puis, tu sais, il y a ça aussi qui influençait, mais lui, il avait la protection royale, fait que ça passait. Mm-hmm. Mais Nostradamus, pas de protection, il aurait pu mal virer.
Mm-hmm. Éventuellement, oui, mais un de ses collègues en Angleterre, John Dee, c'est parce qu'il avait des bons appuis qu'à un moment donné, il ne s'est pas fait coincer dans le même ordre d'idée. Mais c'est ça, c'est que la femme, contrairement à l'homme dans cette situation-là, pourquoi elle est plus dangereuse, c'est qu'elle est toujours associée à la pécheresse ou celle qui amène la tentation de briser des couples. Alors, inévitablement...
C'est notre seule motivation. Hein? C'est notre seule motivation.
De Adam et Ève, oui. Puis, tu sais, les femmes qui connaissent les plantes, il y a toujours cette crainte de l'empoisonnement puis qu'elles peuvent tuer sans que tu t'en rendes compte.
On peut-tu parler?
Une des victimes, ça a été ça. Non. Une vieille femme qui connaissait les plantes.
Mais on peut-tu parler de l'empoisonneuse, là, qui s'est faite une méga business en Italie?
Ah oui, mais là, t'as son nom.
Oh, excuse-moi,
il y a tellement de matériel là, qui passe dans
la tête. On peut parler de n'importe quelle empoisonneuse que tu veux, là. Moi, j'ai une fascination.
C'est son nom que je
non,
cherche.
Mais parce que les empoisonneuses, là, on va le dire, c'était de l'entrepreneuriat au féminin.
Complètement.
Là. C'était complètement ça, là.
Oui, comment te débarrasser d'un mariage non voulu, qui ne va pas bien? Empoisonne ton mari.
Ben,
c'est
efficace.
C'est très bien. Mais celle dont le nom m'échappe présentement, c'est ça, c'est qu'on est en Italie à une époque où il y a eu beaucoup de mariages, surtout dans les familles d'une certaine élite arrangée, puis les femmes étaient malheureuses avec leur mari, puis voulaient être veuve le plus rapidement possible. Puis elle a vraiment fait une business où elle produisait et vendait en fait des flacons de poison où on pouvait à
ma grande question, comment elle faisait son marketing?
ça se faisait dans les rues par le
bouche-à-oreille. C'est la plus belle et la plus vieille forme de marketing.
Comme l'affaire des poisons, la cour de Louis XIV, ça se faisait dans les cours arrière, dans les...
Elle n'avait pas un commerce où c'était écrit... Il y avait un nom comique, genre Poisy-Poison.
Elle a vraiment fait une fortune avec ça.
Elle marche avec un pager.
Un fax.
Voilà.
Par fax.
Si tu textes 911 avec ton numéro, ça s'en vient vite.
Est-ce qu'ils l'ont arrêtée?
Oui, elle a été arrêtée. Elle a été condamnée, puis elle a été tuée, à mon souvenir. J'imagine. Aussi, là, à cette époque-là. Mmh. Mais quand tout ça a été mis à jour, je vous dirais, au jour, on a réalisé qu'il y avait probablement beaucoup d'hommes, finalement, qui étaient décédés par empoisonnement parce que il y a beaucoup de femmes qui sont...
malheureuses dans leur mariage.
Vive le divorce, hein? Vive le divorce. Ça nous empêche d'empoisonner ou de tirer sur...
Mais ça empêche des belles opportunités d'affaires. Par exemple, c'est pour les
partenaires aussi, tu sais, je veux dire, de forcer des femmes. La vie religieuse, c'était ça aussi, quand on y pense. Je veux dire, il y a des femmes qui choisissaient d'aller en communauté religieuse, pense aux Augustines, Ursulines ici ou peu importe, mm-hmm. parce que c'était une porte de sortie. Tu n'avais pas à te marier, tu allais être éduquée, contrairement à si tu étais dans un mariage, tu n'allais pas apprendre à lire ou à écrire. Je sais, chez les Ursulines, tu allais enseigner, donc tu allais être éduquée. En plus, tu avais peut-être la chance d'être missionnaire, de voyager, puis jamais on allait t'imposer.
C'était l'armée pour les femmes.
Ben un peu, mais en même temps, tu sais, t'avais tout ce qu'une femme n'avait pas le droit d'avoir parce que tu choisissais le célibat puis la vie religieuse. C'est que je veux dire, un cloître rendu là, pas grave. Je ne me ferai pas battre par mon mari.
Je vais me faire des amis.
Si je suis une Augustine, je vais aller à l'hôtel Dieu.
Je vais
soigner
aussi,
des gens.
Ou je veux pas avoir d'enfants.
Et aussi, je vais faire des affaires.
Oui,
oui. Tu ne fais pas si tu es une épouse.
Soigner la communauté. Fait que, souvent, je les appelle les féministes avant l'heure, ces femmes-là, parce qu'elles ont réussi, sans tuer leur mari, à se sortir par le choix de la vie religieuse d'une situation qui aurait pu être malheureuse. Mais on ne le voit pas comme ça parce qu'on se dit « Oh, les religieuses, elles étaient méchantes avec les Autochtones. » Et tu attendez, là, je veux dire, il y a tout un autre univers qui vient avec ça où, quelque part, il fallait avoir un peu de courage, mais c'était une façon de dire « Moi, ce mode de vie-là qu'on veut m'imposer puis que mon père veut se dépêcher de se débarrasser d'une bouche à nourrir, puis veut m'envoyer avec le bonhomme au fond du rang qui va me battre, puis tout ça, ben oui, je vais dévouer ma vie à Dieu, mais je vais avoir une vie à travers.
Oui,
elle est vieille, les religieuses, d'ailleurs. C'est pour rien, son stress. Hein? Il y a une baisse du niveau de stress.
C'est un truc qu'il faut mentionner. Tu sais, souvent qu'on parle d'avant, on dit, hey, on est capotait sur Dieu, puis il capotait sur Jésus. Non, c'était une mise en scène. Tu faisais semblant de capoter sur Jésus pour vivre autre chose. Comme aujourd'hui, les gens, c'était sur Instagram, là, puis ils capotaient sur leur like, puis ils prenaient ça vraiment au sérieux. Non, on savait que le like, c'est juste une manière de communiquer.
Donc, en fait,
puis
pour certaines personnes, peut-être, mais pour d'autres, non.
Pour un influenceur, ça peut être une drogue, je pense, mais payante.
Ouais.
Ouais, mais c'est vrai que la religion, par contre, il y avait beaucoup de niveaux. Il y en a qui pouvaient être complètement dévoués corps et âme. Il y en a qui pouvaient y croire correct. Il y en a qui ne croyaient pas pantoute, mais qui allaient à la messe pour ne pas faire jaser. Mm-hmm. Comme n'importe quoi, si tu as absolument raison. Puis il faut se rappeler aussi qu'il n'y avait pas de télé, il n'y avait rien à faire. Fait que souvent, c'était une façon de se divertir, de voir du monde, d'avoir du social un peu. Puis c'était beaucoup.
Tu étais logé, tu étais nourri, puis tu savais que tu n'allais pas manquer de rien aussi. Mm-hmm. Tandis que des fois, quand tu étais marié avec justement bonhomme du fond de rang qui...
Il faut que tu ailles chercher à la taverne.
Tu sais, je veux dire, tu allais probablement être dans grosse misère. La communauté religieuse gérait bien. C'était des administratrices aussi. Ça avait compté aussi. Fait que tu savais que tu allais avoir une vie pas mal plus confortable que les autres.
Que le bonhomme du fond du rang.
Et voilà!
Bonhomme du fond du rang.
Et peut-être que les religieuses auraient été beaucoup plus épanouies s'ils avaient l'aide de Ross et compagnie.
J'adore ça.
Mesdames et messieurs, ce segment est une présentation de Eros et compagnie, un sex shop.
Ah, mon Dieu, ça veut dire que j'en obtiens un deuxième?
Ouais!
Oui!
Mais t'as deux...
Un
par orifice. Un par orifice, c'est pas de problème. Eros et compagnie est un sex shop. Si t'as envie de mettre du pétillant dans ta vie sexuelle, Eros et compagnie, avec le couple, avec pas le couple, mais avec le code...
La dernière fois, on m'avait donné le historique, là. J'avais le vintage, le magic wand.
Ben oui, là,
Le code promo couple 15. Code promo couple 15, c'est 15% pour te masturber ou masturber une personne que t'aimes.
Je pense que tu savais ce qui était écrit sur ma carte.
Non. Non, c'est vrai. C'est-tu connecté?
Vas-y. Je vais lire mon message. Évelyne Perron, c'est Ferron, mais merci. Étant donné qu'à votre dernier passage à couple ouvert, Gabrielle a été gâtée en termes de versatilité. Eros et compagnie a décidé de te gâter à ton tour et t'offrir ce jouet aux embouts interchangeables pour combler tous tes besoins.
Bonne. Hey, monde, je sais pas c'est quoi.
On se dit, c'est comme une cendrine. C'est vraiment une boîte mystère.
Ah, c'est une boîte toute noire. Oh,
c'est très discret. C'est complètement bon, discret.
Ça, c'est brillant, pendant que tu ouvres, je vais aller.
Parce que c'est la boîte du diable.
Tu vois, des ongles. Écoute, je pense que ça va me
prendre un outil. Non, non, moi, j'ai une bouche.
Alors... Gabrielle, lors de ton dernier passage à Couple ouvert, Eros et compagnie t'a offert un jouet qui fait presque tout. La seule chose qui te manquait était un jouet à succion. On t'offre donc le révolutionnaire Womanizer.
Mais tu t'en plains souvent que t'as rien pour sucer. Les choses arrivent.
Wow! Alors voilà!
C'est beau!
Ça ressemble à un qu'on fait tirer dans notre épisode, parce que nous aussi, on est commandité par Eros et compagnie. Et on en fait tirer un, nous, pour nos abonnés, qui ressemble un petit peu à ça.
C'est 100% bio-based.
Ah, oh, je pensais biodégradable. C'est comme, je sais pas, combien de temps ça va durer?
Oh my God, Evelyne!
Oh my God! Regarde, ça marche avec tes cheveux!
Oh my God! C'est incroyable!
Wow!
C'est génial!
Et avec une prise USB, moi je capote. Moi j'adore ça. C'est merveilleux.
Si ma... Gang, je parle aux étudiants d'Evelyne. Si jamais vos
ouais.
Si jamais vos examens sont pas corrigés à temps, c'est qu'elle est occupée à autre chose. Elle est occupée à...
Je suis bien relax.
Dans
mes cours un peu trop,
parce
que je suis bien
speedée. Imagine, la moyenne de la classe augmente de 5%. Parce que...
Hey, oui! Wow!
On dirait que j'ai un balado jeunesse à Radio-Canada, fait que je vais cacher ça.
Oh my God! C'était incroyable.
J'adore!
Les enfants qui m'écoutent, incroyable histoire, vous n'avez rien vu, rien entendu. Les parents, écoutez, vous pouvez faire la distinction entre un passage à couple ouvert et le balado pour les enfants. J'ai deux personnalités.
Oh my God! Donc, aujourd'hui, pour le segment des dates, on va pas lire des dates de nos auditeurs. Je sais qu'il y en a qui vont faire « Ah, boum, c'est pas grave, revenez la prochaine fois. »
Qu'est-ce que tu dis que c'est pas un auditeur?
Ben, Napoléon Bonaparte.
Peut-être.
Et notre auditeur du jour, en tout cas notre écrivain du jour, parce que je voulais profiter du passage de Evelyne et Gabrielle pour parler de Napoléon, mais aussi parler de son amour avec Joséphine.
Joséphine!
Donc, et Napoléon a écrit de nombreuses lettres à Joséphine. J'ai pris ça à la bibliothèque Raymond Lévesque de Saint-Hubert. Toutes les bibliothèques de Longueuil sont liées ensemble, donc vous pouvez aussi le retrouver dans une librairie ou une bibliothèque
en passant, près de chez vous. Valaska qui a fait notre illustration de travail.
Dans les bibliothèques de Longueuil. Ouais. On la salue.
On la salue.
Donc, j'ai entre mes mains un livre qui est écrit, qui rassemble des lettres écrites par Napoléon, qui s'intitule « Lettre d'amour à Joséphine ». C'est vraiment un bel objet.
C'est un bel ouvrage.
Qui est collant.
Ouais,
c'est un
vrai livre de bibliothèque.
Non, mais c'est pas ça qu'elle voulait dire. Ouais. C'est pas ça qu'elle voulait dire.
Qui ont eu du plaisir.
Oui, voilà.
Est-ce que c'est un livre qu'on lit à une main? Je ne sais pas.
Vas-y, mon amour.
Mais bon.
Là, elle a dit que là, je sais exactement la texture.
Tu sais de quoi je parle, hein?
Vas-y, mon amour.
Ah, je sais déjà c'est quelle lettre que tu vas lire. C'est délicieux.
Alors. Je reçois ta lettre du 25. J'apprends avec peine que tu es indisposée. Ce n'est pas là une bonne disposition pour faire 100 lieues dans cette saison. Je ne sais ce que je ferai. Je dépends des événements. Je n'ai pas de volonté. J'attends tout de leur issue. Reste à Munich. Amuse-toi. Cela n'est pas difficile lorsque l'on est tant de personnes aimables et dans un si bon pays. Je suis moi aussi assez occupée. Dans quelques... Tu es à la guerre.
Tu n'as fait que coloniser l'Afrique.
Dans quelques jours, je serai décidée. Adieu, mon ami. Mille choses aimables et tendres.
Oh, ah, il est friend-zoné.
Cette lettre-là, il y en a plein des très semblables. Et à travers certaines lettres, on dénote beaucoup de jalousie de la part de Napoléon.
Ben oui, bien sûr, il est très jaloux de
Joséphine. Est-ce que c'est le premier grand jaloux documenté?
Non?
Non, il y en a eu d'autres avant.
Jaloux dans l'histoire?
Ouais. Ben voyons.
C'est qui le plus grand jaloux?
Ben c'est ça, là, toi, tu drops ça comme si on savait tout que tous les monarques étaient jaloux, là, mais...
Ah,
mais
je disais pas juste monarque, qui mais... Moi, j'avais été l'empereur Claude à un moment donné. J'aurais peut-être été jaloux à un moment donné parce que sa femme, la Messaline, ça a été probablement celle qui a couché avec le plus d'hommes possible en dehors de sa propre
famille. Elle allait au lupanard.
C'est
quoi le lupanard?
C'est un bordel.
L'ancien mot pour le bordel. Bordel vient du Moyen-Âge quand l'Église a permis les maisons de prostitution, mais c'est dit parce qu'il voyait que les voyageurs et tout ça, maintenant, avaient des besoins. Puis pour éviter les violences sexuelles, l'Église a dit OK, on doit permettre les maisons de prostitution, mais on va les mettre en bordure des villes. Bordel.
Je savais pas moi non plus. Je fais comme si je savais, mais je l'ai appris via Jean-Royal. Depuis qu'Evelyne me l'a dit, pour vrai, j'ai commencé toutes mes phrases de même. Genre, dès que j'ai appris cette information-là, j'étais comme, savais-tu d'où ça vient, bordel? Salut, bonne journée, en tout cas. Tout commençait de même.
Steph voulait pas que j'allise, mais il y a une de mes lettres favorites de tous les temps.
Je dis pas que je voulais pas que t'allises.
C'est pour ça qu'il était sur son cellulaire.
Voilà. Pour ça que vous connaissez James Joyce. James Joyce, c'est un des plus grands écrivains irlandais. C'est un des plus grands écrivains. C'était aussi un homme qui écrivait des lettres à une femme qui s'appelle Nora.
Okay.
Je voulais lire une lettre qui est légendaire de Nora.
Ouais.
Alors, je vous rappelle que il est étudié dans toutes les universités. C'est un grand écrivain.
Oui.
Il est grandiose. Tu sais de quoi je parle, hein?
Mais quand arrive le corps humain,
voilà.
L'intellect diminue.
On y va? C'est une lettre de James Joyce.
Je connais
les archives. Mais
oui! On part? Ma douce petite pute Nora. J'ai fait ce que tu me disais, ma sale petite fille, et je me suis branlé deux fois en lisant ta lettre. Je suis ravi de voir que tu aimes être foutu par le cul. Oui, maintenant je peux me rappeler cette nuit où je t'ai foutu si longtemps par derrière. Chérie, ça a été la baise la plus dégueulasse que j'ai jamais faite. Ma pine est restée plantée dans toi pendant des heures, te foutant et te refoutant par en dessous ta coupe redressée. Je sentais tes grosses fesses grasses en sueur sous mon ventre et je voyais ta face enfiévrée et tes yeux fous. À chaque coup de queue que je te donnais, ta langue impudique jaillissait d'entre tes lèvres et je t'en donnais un coup plus fort, plus profond que d'habitude. Des pets bien gras, bien sales sortaient en crachotant de ton derrière. Tu avais un cul plein de pets cette nuit-là, chérie, et je te les sortais en te foutant de beaux gros copains bien gras, de longs ventreux, de petits craquants gays rapides et tout un tas de petits minuscules pelissons de pets qui se terminaient entre une coulée jaillissant de ton trou. C'est merveilleux de foutre une femme qui a des pets quand chaque coup de queue les fait sortir un par un. Je crois que je reconnaîtrais n'importe où un pet de Nora. Je crois que je pourrais repérer le sien dans une salle pleine de femmes petteuses. C'est un bruit plutôt fillette, pas le pet mouillé lâche que j'imagine chez les femmes grasses. Il est soudain et sec et sale comme celui d'une petite fille effrontée décrochée le même jour nuit pour rien rire dans un dortoir. J'espère que Nora ne décrochera sans fin ses pets dans la face pour que je puisse connaître leur parfum. Tu dis que je ne reviendrai, tu me suceras et tu veux que je te laisse le con, petite salope dépravée. J'espère qu'une fois tu me surprendras quand je dors et je suis habillée, que tu t'approcheras furtive avec l'ardeur d'une putain dans tes yeux ensommeillés et tu me déboutonneras doucement, bouton après bouton, la braguette de mon pantalon et doucement tu y prendras le gros Mickey de ton amant et tu l'avaleras dans ta bouche humide et tu le suceras encore et encore jusqu'à ce qu'il devienne plus gros et plus raide et qu'il décharge dans ta bouche. Moi aussi, une fois, je te surprendrai endormi. Je te remonterai les jupes et j'ouvrirai doucement ta culotte brûlante. Puis, j'étendrai doucement à côté de toi et je commencerai à lécher paresseusement tout autour de ta fourrure. Tu commenceras à te remuer et à t'agiter, alors je lécherai les lèvres du con de ma chérie. Tu commenceras à gémir et grogner et soupirer et péter de joie dans ton sommeil. Alors je lécherai plus vite et plus vite comme un chien vorace. Jusqu'à ce que ton con soit une masse de bave et que ton corps se torde sauvagement. Bonne nuit, ma petite Nora, pèteuse. Mon dégoûtant petit oiseau fouteur. Il y a un mot charmant, chérie, que tu as souligné pour que je me branle mieux. Excuse-moi. Écris-moi plus ça et sur toi, avec douceur, plus sale en majuscule.
Et c'est de là que vient l'expression « Darling, talk to me dirty ».
Ah!
Oh, c'est une joke.
Oh my God! J'étais genre, Evelyne en connaît tout!
Moi, je crois tout ce que Evelyne dit. Je suis comme, oh yeah!
C'est la littérature!
Oui,
ça a aucun sens.
Oui,
c'est James Joyce.
Il faut la lire en anglais aussi.
En anglais, c'est encore meilleur.
C'est ça.
Lui en français, là, parce que c'est francophone, mais en anglais, c'est meilleur.
J'ai fait un peu étonné du vocabulaire en français.
En français, c'est encore plus dégueulasse. C'est hard, c'est
en
encore
anglais.
Plus dégueulasse.
Là, l'odopette est quand même le fond.
Oui, elle est quand même longue aussi. Oui, hein, oui, ça dure.
C'est le fond de guerre.
Ça dure.
Il aime faire de l'anal.
J'ai failli te pousser mon nouveau cadeau de Véras et compagnie, puis tu t'amuses en même temps.
Oh, mon Dieu! Ça commence, ça.
C'est pas le même champ lexical que Napoléon.
Non, Napoléon écrivait bien.
Mais je sens que le désir est quand même très présent dans les deux cas.
Plus James.
Tu penses?
Plus James.
Ben, lui,
il a la jalousie.
Lui, il est à la guerre.
Chérie, ne te lave pas. J'arrive dans 30 jours.
Wow, il dit ça?
Oui! Oui!
Adore Napoléon.
Je sais pas si je m'attendais à ça tantôt.
Mais non, mais je savais. J'avoue que je l'ai pas lu au complet. Puis là, j'arrive ici avec ça, elle dit c'est le bout où est-ce qu'il se lave pas. J'étais comme excuse-moi.
Il lui demande de pas se laver parce qu'il s'en vient. Fait qu'il va être sûr.
Mais il s'en vient pas dans 24 heures, là. Tu sais, dans 30 jours.
C'est loin, le temps qu'elle reçoive la lettre. Le temps que lui perde puis qu'il s'en vienne, ça donne à peu près un mois.
Mais j'adore le fait qu'il est vraiment comme très occupé sur
le champ de bataille.
Voilà. Puis qu'il prend le temps. Puis des fois, il est comme yo, moi je t'écris tout le temps. Puis toi, tu m'écris pas tout le temps. What the fuck? Comme ghosting, what?
Ouais.
Ça fait ghoster.
Précurseur.
Il se fait ghoster pendant qu'il se chante.
Je m'attendais à ce que ce passage à couple ouvert soit un chanteur de sujet.
De quand date le ghosting, Evelyne? Quand le ghosting a-t-il été inventé?
C'est une bonne question.
C'est ce que j'ai lu hier. Il y a quelqu'un dans un tweet. Bon, ça va, ça va. Mais la personne, elle disait que ghoster, c'est quand même, ça communique quelque chose.
Ben oui.
C'est pas le silence est une forme de communication.
Ouais, ça veut dire que je veux plus rien savoir.
Ben oui.
Voilà.
Laisse-moi tranquille.
Voilà. Mais excusez, mais la chose la plus insultante du monde là, c'est de se faire ghoster sur Marketplace. Je vais jamais m'en remettre. Jamais m'en remettre. Jamais. Je veux t'acheter une lampe. Je veux pas développer une relation à long terme.
Ça pourrait être si simple.
Oui. Fais juste me dire ce n'est plus disponible. C'est terminé, là. Ou juste non.
Oui, mais c'est ghost, c'est le message qui est envoyé.
Ça m'insulte. Ben non, parce que t'es comme, est-ce qu'il est en train d'essayer de conclure une transaction ailleurs, puis que moi, je suis juste stand-by, tu sais, puis je passe au prochain appel.
Est-ce que t'es en train de dire que t'es jalouse comme Napoléon?
Je suis jalouse!
T'es-tu en train de parler à quelqu'un d'autre?
Fait que si jamais vous êtes sur Marketplace et qu'il y a quelqu'un qui vous harcèle pour savoir si vous n'êtes pas présentement en train de vendre l'item qu'elle veut à quelqu'un d'autre.
Ben oui, mais d'un bord ou de l'autre, là, même chose que toi quand tu veux vendre quelque chose puis la personne est comme « bonjour, est-ce encore disponible? » T'es comme « oui, plus rien. » Mais voyons, c'est juste ça ton fun, demander si c'est encore disponible.
Est-ce que je me réserve à toi ou encore là, est-ce que je peux aller voir ailleurs? Puis après ça, tu m'en veux, je sais.
Ben écoute, puis moi j'ai déjà passé au prochain appel, j'étais comme là, elle me répond pas. La madame est revenue, puis elle m'a chicanée. J'étais genre là, t'as pas compris là. T'as pas compris les barèmes de Marketplace. Je te dois rien, Brigitte.
L'étiquette de Marketplace.
Ouais, vraiment. Voilà.
Tu peux dire à Brigitte, lave-toi pas, on se retourne dans 30 jours.
En fait, dans ce que Thomas a lu, il y a plein de choses que tu peux envoyer à quelqu'un pour au moins répondre plutôt que ghoster. Tu vas être sûr que l'autre personne va te ghoster.
Oui. Ben déjà bon le début. Gros pet gras dans ma face.
Mais au début, j'étais j'étais pas tant surprise de ce que tu lisais parce que j'étais comme, j'ai des amis sur Tinder, puis je trouvais qu'il y avait quand même des fois des petites phrases.
Il y avait un champ lexical.
De gars Tinder,
oui,
là. Ouais,
Tinder.
Ouais.
Complètement Tinder.
Fait que c'était pas, ben, site de réseau de rencontres, là,
en
tout au.
Je connais rien à ça. Je ne suis pas sur Marketplace. Je connais rien à Tinder. Je me sens.
Mais tu connais James Joyce.
Je connais James Joyce.
Mais regarde, t'as tes priorités, Evelyne.
Les filles, c'est un plaisir. Vous êtes incroyable. On vous suit, on capote. On vous suit sur Instagram, sur Facebook. Pas dans la rue.
Pas dans la rue. Ouais, merci. C'est bien, pas dans la rue.
Merci beaucoup.
Merci.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.